Budget. Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen. So, so, glos, so, so, da.
Elole. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Simeon Achakpa. Avec d'autres collaborateurs, Sidi Amivi, Senam Kodjo, Sika Naomi, Josué Maoli et Esteban Gagnon.
Oui, d'accord, avions la voix.
Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Oui, d'accord, Miladjo Elo. Oui, d'accord, avions la voix.
Bonsoir Bujumbura, bonsoir Lomé, amis auditrices et auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Bienvenue au cœur de l'information panafricaine sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Émission synchronisée sur nos radios partenaires FM Liberté, Radio Dédiment et Ben Radio. Au sommaire de cette édition du 18 février 2017, Burundi. Le ministre burundais de l'Intérieur et de l'Information patriotique en visite en Ouganda, mardi 14 février dernier, demande aux réfugiés burundais de retourner au Bécaye. Est-ce la fin de la crise politique que traverse le Burundi depuis la réélection de Pierre Nkurunziza? Nous allons en parler avec notre invité qui est le président de la diaspora burundaise en France. Togo, réforme politique. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, Ashkroun, et la commission de réflexion veulent s'inspirer du cas Rwanda en matière de réconciliation et de réforme politique et institutionnelle. Que vous inspire cette démarche du Ashkroun? Cirque autour de l'opérationnalisation des réformes politiques. Fort Nyasimbe prépare-t-il son quatrième mandat? Nous en parlerons avec nos invités de la diaspora togolaise, ici même en France et à Vienne en Autriche. Merci de nous être fidèles. Et tout de suite, retrouvons en France notre invité burundais.
Radio Denigbon, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Au Burundi, le ministre burundais de l'Intérieur de la formation politique en visite en Ouganda mardi 14 février dernier demande aux réfugiés burundais de retourner au Bécaye. Est-ce la fin de la crise politique que traverse le Burundi depuis la réélection de Pierre Nkurunziza en 2015? Nous en parlons tout de suite avec Gratien Rukidinkiza, président de la diaspora burundaise en France. Bonsoir Gratien Rukidinkiza.
Bonsoir cher ami.
Merci de nous accompagner en direct depuis la France. Justement, la crise burundaise perdure. Et là, le ministre burundais demande aux réfugiés burundais à Ouganda de retourner au Bécaye. Est-ce la fin de la crise que traverse votre pays?
À ma connaissance, il n'y a rien qui a changé au Burundi. Il y a les tueries, il y a les emprisonnements et il y a déjà les départs à aller en exil. Il y a des réfugiés. Le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement burundais peut se permettre d'aller chercher les réfugiés pour qu'ils puissent rentrer, alors que le dialogue bloque à Arusha. On ne peut pas parler de retour des réfugiés sans qu'il y ait d'abord le retour des politiciens et sans qu'il y ait aussi la réorganisation du corps de sécurité du pays et aussi la gestion du pouvoir en soi.
Pour vous, jusque-là, la crise perdure et donc la situation est toujours, si elle n'est pas tendue, et donc vous pensez que les exactions sommet continuent au Burundi, hein?
Oui, ça continue au Burundi, on continue à tuer, on dénombre beaucoup de morts et maintenant on s'attaque surtout aux anciens militaires, les ex-FAB qui sont encore dans l'armée, surtout des Tutsis. On tue aussi les Hutus, les membres du FNL, le parti de Rwasa, parce que ces gens-là refusent de cautionner ce qui se passe au pouvoir. Donc, on continue. C'est toujours la même chose. Mmh. Et ce qui étonne les Burundais, c'est que la communauté internationale et surtout l'Union africaine ne réagit pas.
D'accord, on va en parler tout de suite également. Alors, il y a longtemps que perdu cette crise au Burundi, et pour rappel à nos auditeurs, l'Union africaine avait rejeté l'option d'une intervention militaire au Burundi, et les négociations ont toujours échoué, vous venez quand même de le relever encore une fois. Alors, l'alternance en Gambie inspire beaucoup d'Africains encore sous une dictature. Gratien Rukindikiza, est-ce que l'opposition burundaise ne peut-elle pas aussi s'inspirer du cas de la Gambie et qui a eu le soutien, hein, je parle de l'opposition gambienne, hein, cette opposition a eu le soutien de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, la CDAO.
La Gambie est différente du Burundi. D'abord, au niveau de la géopolitique, il faut voir que la Gambie, politiquement, dans la sous-région, il y a des pays démocratiques. Il y a des présidents qui ont été élus démocratiquement. Presque toutes les dictatures qui étaient dans la sous-région ont disparu. On a des présidents des démocrates Macky Sall, on a des présidents béninois, guinéens, on a un président burkinabé. Donc la donne a changé au niveau de l'Afrique occidentale. Les présidents de l'Afrique occidentale veulent qu'il y ait la stabilité, veulent qu'il y ait la démocratie dans la sous-région et ils entendent vraiment le démontrer et ils n'attendent même pas la communauté internationale pour agir. Or, dans la sous-région, dans l'East Africa Community, il suffit de regarder les mandats des présidents. À part la Tanzanie et le Kenya, vous vous rappelez bien qu'il y a eu de la violence, même la démocratie kenyane reste encore à désirer. La Tanzanie reste, c'est Chama Cha Mapinduzi qui est au pouvoir. Chama Cha Mapinduzi qui avait soutenu Nkurunziza pour arriver au pouvoir, mais pour faire la rébellion. Il y a l'Ouganda, Yoweri Museveni, vous avez vu comment il a réprimé son opposant pendant les élections. Et il est en énième mandat. Il prépare son fils Mozi pour arriver au pouvoir. Donc, c'est pratiquement la dictature qui s'installe dans l'East Africa Community. Comment est-ce qu'ils peuvent se mettre à dos un autre dictateur qui est en train de faire n'importe quoi? Donc, il y a un manque de volonté de la part de ces pays. Mais toujours, disons que la Tanzanie est capable de changer la donne au Burundi. Or, c'est vraiment la pièce qui manque, la pièce maîtresse dans ce jeu burundais.
Donc, pour vous, l'opposition n'a pas de relation avec les autres pays, notamment la Tanzanie et le Rwanda, pays limitrophe du Burundi, alors?
L'opposition a une très bonne relation avec le Rwanda. Ce n'est qu'un secret de polichinelle que les opposants se trouvent à Kigali, sont aidés par le gouvernement rwandais, sont protégés par le gouvernement rwandais, hébergés, tout par le gouvernement rwandais, c'est une très bonne chose. Mais le Rwanda tout seul ne peut rien faire parce qu'il peut être accusé de vouloir s'immiscer dans les affaires burundaises. Or, les relations avec la Tanzanie pour l'opposition, c'est assez mitigé. Les dirigeants tanzaniens sont un peu particuliers par rapport aux autres dirigeants des autres régions. C'est ce que nous appelons dans l'East Africa les gens du communément, les gens de les Swahili. Ce sont des gens qui peuvent dire ceci aujourd'hui, qui peuvent dire le contraire demain. Et donc, ce qui fait que on peut pas se fier à ce que racontent les Tanzaniens. On a vu Benjamin Mkapa, par exemple, ce qu'il a raconté au Burundi. Et aujourd'hui, à Arusha, il dit le contraire. On se demande si vraiment il y a une seule parole. Et ce qui fait que on ne peut pas avoir confiance en ces gens. Et je peux vous dire que l'opposition n'a pas vraiment de base solide et de relations en Tanzanie.
D'accord. Et là, vous venez tantôt d'évoquer le cas de la communauté internationale par rapport à son implication. Mais justement, là, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'Union africaine n'avait pas accepté cette option d'une intervention militaire au Burundi?
Alors, quand ils ont décidé... La commission a décidé de l'intervention militaire, les 5000 militaires de Maprobo. Il faut savoir que c'est Idriss Déby qui dirigeait l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine. On a vu la délégation qui est intervenue au Burundi. Pratiquement, on avait l'impression qu'on avait envoyé des dictateurs au Burundi. Idriss Déby, et lui qui veut pas organiser les élections, il les organise. Certains se retrouvent en prison. Qu'est-ce qu'il peut dire pour quelqu'un qui réclame son troisième mandat alors que lui, il a quel mandat déjà? Donc, on peut se dire que les présidents africains, on a beaucoup de dictateurs et ils ne peuvent pas décider vraiment contre Nkurunziza. Ils laissent la patate chaude à l'East Africa Community et qui a déjà démissionné au niveau de cette mission, qui n'a pas fait comme du temps de Buyoya où ils avaient imposé un embargo qui l'avait poussé à négocier.
Rapidement, une dernière question. Donc, face à cette situation, la lutte devient très, très rude pour la population africaine burundaise. Et là, vous êtes au niveau de la diaspora. On rappelle que vous êtes le président de la diaspora burundaise en France. La diaspora continue-t-elle le lobby international comme le font actuellement les Gabonais, comme on le voit tout le temps, tous les samedis, depuis que les Gabonais réclament cette victoire de Jean-Ping?
Eh bien, la diaspora continue le lobbying. Bon, je peux vous dire que, par exemple, parce que je connais bien là en France, on a été reçu au Parlement deux fois. On a été même jusqu'à la présidence du Parlement. On a été reçu au Quai d'Orsay. Et à l'Élysée, on a été reçu deux fois. On a décroché pas mal de promesses, mais cette fois, c'était pour les réfugiés burundais, donc qui bénéficient d'un statut spécial pour avoir pratiquement automatiquement le statut de réfugié quand ils arrivent, quand ils présentent leur dossier. Et on a eu aussi une certaine avancée dans l'analyse de la question burundaise par le pouvoir français. Disons qu'on a pu, infléchir la partie française qui était beaucoup bloquée sur Nkurunziza. Mais d'autre part, on continue aussi, on a d'autres projets, par exemple, pour se rapprocher des Russes, des Chinois, parce que ce sont eux qui bloquent au niveau du Conseil de sécurité. Je peux vous dire que moi-même, j'ai déjà fait une interview dans le journal tant décrié aujourd'hui, très connu par les Russes, très connu maintenant par le monde entier, Russia Today, RT, qu'on dit bien qu'il a influencé les élections américaines. J'ai déjà fait une interview sur le Burundi. Donc vous voyez bien que ça fait partie de son lobbying. Et on intervient dans plusieurs radios, dans plusieurs médias. On continue, je pense, on ne va pas baisser les bras et on fait avec les autres diasporas qui sont en Europe.
On dit souvent que la lutte populaire est invincible. Vous êtes dans la diaspora, les Burundais qui sont restés au pays continuent cette lutte malgré les exactions sommaires, les répressions policières. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos compatriotes qui nous suivent dans cette émission panafricaine?
Alors, c'est difficile à dire parce qu'on est à l'étranger, eux, ils subissent les massacres, les horreurs. Bon, c'est de dire de résister, de tenir, et surtout à l'endroit de ces militaires qui ont les armes, de ne pas se laisser faire. Quand on a les armes, on peut se défendre, et quand on n'a pas les armes, malheureusement, on ne fait rien. Mais c'est difficile vraiment quand on voit ce qui se passe au niveau de l'armée. Et puis, nous, on est de la société civile, on ne prône pas une guerre civile, on ne prône pas la prise des armes parce que on est de la société civile, mais à un certain moment, on sait bien qu'il y a eu beaucoup de mouvements de libération, on sait comment l'Angola a été indépendante, on sait bien comment l'Algérie a été indépendante, on sait comment est-ce que le génocide au Rwanda a été, disons, limité. Donc, il y a plusieurs solutions qui se mettent sur la table, mais espérons qu'il y aura plus un accord à Arusha pour que la question soit réglée pacifiquement.
En tout cas, merci beaucoup, Gratien Rukidinkiza. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes président de la diaspora burundaise en France. Merci et bonsoir.
Ok, merci. Bonsoir.
Zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Un message
message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde.
Merci de nous être fidèles dans cette émission panafricaine en Fenêtre sur l'Afrique. Merci également à nos radios partenaires FM Liberté à Chicago, Radio Denigon à Moline également aux États-Unis et Eben Radio en France. Actualité politique au Togo, mais bien avant de prendre nos invités, nous vous proposons notre éditorial. Le pouvoir togolais n'a aucune volonté d'opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Amis auditeurs de la diaspora togolaise, Robert Doucet déclarait il y a quelques jours sur les ondes de la Deutsche Welle que Faure Gnassingbé ne veut pas s'éterniser au pouvoir et que le gouvernement dit vouloir s'activer pour mettre en place les réformes politiques promises. Les bonnes nouvelles du chef de la diplomatie togolaise ne sont pas arrêtées là. Il a d'ailleurs affirmé en outre que les élections locales auront lieu en 2017. Faut-il prendre ces mots de M. Doucet pour argent comptant? Que le système RPT Unir nous permette d'en douter, il a raison. La roubladise, le dilatoire et le mépris systématique de ce régime nous oblige à développer un certain doute méthodique vis-à-vis de ces dires. Les déclarations d'intention, les promesses et les actes de ce système ne se suivent quasiment jamais. Nous n'allons pas remonter jusqu'aux 22 engagements pris par le Togo auprès de l'Union européenne. Partons des conclusions, des recommandations de l'accord politique de 2006. Si on ne s'en tenait qu'aux promesses de Faure Gnassingbé, les réformes auraient dû être réalisées au plus tard en 2009. Finalement, tout a été orchestré pour que ces réformes ne voient jamais le jour. L'expression la plus explicite de l'aversion de ce régime envers toute idée ou initiative progressiste fut la machination ubiesque organisée, toute honte au but, par ce dernier à l'Assemblée nationale en juin 2014. Et justement, quand la majorité parlementaire rejetait le propre projet de loi du gouvernement portant réforme constitutionnelle. Si on pousse un peu plus loin l'analyse de cette farce, ce serait le peuple représenté par ses élus qui serait contre les réformes initiées par le gouvernement pour plus de démocratie. En même temps, toutes les études et autres sondages relèvent que les Togolais réclament à plus de 80% les dites réformes. Les élus togolais entendent-ils vraiment les aspirations et attentes de leur mandat? Les représentent-ils réellement? Les faits semblent répondre à ces interrogations par le négatif. Rappelons en passant que maintes propositions de l'opposition sur le sujet furent systématiquement rejetées par les députés Unir. Suite à ces malheureux événements, le régime togolais faisait entendre que l'accord politique global était caduque, qu'il fallait passer à autre chose. Dans la foulée, Faure Gnassingbé initie le H-Crown qui devrait mener beaucoup plus en profondeur les réflexions autour des réformes. Les assises ont eu lieu et ont sorti des recommandations. Alors que le peuple attendait la traduction de ces dernières dans les faits, le régime a de nouveau mis en place une énième commission composée entre autres de personnes haut en couleur et dont l'objectivité est connue de tous, à l'instar d'Aoumé Zounou, Adi Outea Yassor, etc., qui, selon Faure Gnassingbé, travailleront à formuler des propositions pour la vitalité de notre démocratie. On en est encore au stade des propositions, malheureusement, chers amis auditeurs de la diaspora togolaise. Le dernier événement en date est l'arrivée à l'Orme d'experts rwandais pour partager leurs expériences en matière de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Qui peut être contre ce genre d'initiative si le but est d'en tirer des bonnes pratiques et s'en inspirer? Le chef de la délégation rwandaise, professeur Anastase Chiaka, a reposé son riche exposé sur un typique constituant un impératif fondamental à savoir unité, la redevabilité et la confiance du peuple en lui-même. L'unité au Togo est encore une chimère quand la minorité du chef paupérise et martyrise la grande majorité. En matière de redevabilité, l'élite au pouvoir semble plutôt croire que c'est le peuple qui lui est redevable. Les pouvoirs sont sans limite et ne font l'objet d'aucun contrôle. Enfin, le peuple togolais n'a plus confiance ni en la classe politique ni en lui-même. D'où l'état de léthargie dans lequel il se trouve depuis un certain temps. L'immobilisme total. Nous estimons que le pouvoir togolais a tous les éléments, toutes les expertises, tous les exemples et autres bonnes pratiques pouvant l'inspirer dans l'accomplissement du projet de réforme. La seule vérité qui tienne, jusqu'à preuve du contraire, c'est que Faure Gnassingbé et son système n'ont ni volonté politique, ni intérêt à opérer ces réformes-là. Car la seule chose qui manque à la réalisation de ce projet soutenu par le peuple, c'est la volonté. Il revient au peuple de prendre ses responsabilités. Merci de nous être fidèles. Novio, à volonté. Et comme l'a dit l'artiste engagé Amen Jassissi, la lutte continue.
La lutte continue. Le combat continue.
On va jamais baisser les bras.
Tant que ces inconscients refusent de céder là,
on va jamais baisser les bras.
Oui, on va les démontrer qu'on est déterminé. On va les montrer qu'on ira jusqu'au bout.
Le combat continue.
Milesia.
Tant que ces dictateurs refusent de partir là,
on va jamais baisser les bras.
Tant que ces dirigeants refusent de céder là,
on va jamais baisser les bras.
Oui, on va les démontrer qu'on est déterminé. On va les montrer qu'on ira jusqu'au bout du combat.
Yaman, la lutte pour la liberté.
Y'a plus question de marche arrière. Nous sommes allés trop loin pour se décourager. Y'a plus question de demi-tour. Oui, devant les bombardements, on va résister. Devant les gaz lacrymogènes, on va supporter. Devant les policiers et gendarmes, on va résister.
Il est sûr.
FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Depuis plus de deux mois, des enseignants regroupés au sein de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo, CICET, sont en grève. Quelques rencontres avec le gouvernement début de cette année n'ont abouti à aucun consensus concernant les revendications des enseignants qui réclament une meilleure condition de travail. L'État togolais manque-t-il des moyens pour satisfaire les revendications des enseignants? Nous accueillons tout de suite en ligne en direct depuis Lomé, Sanogo Joachim, chargé de l'information de la CICET, coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Sanogo Joachim, bonsoir.
Oui, bonsoir, mon père. Et c'est Sonoukou Joachim.
Exactement, Sonoukou Joachim. Justement, merci pour cette correction de votre nom. Alors, vous êtes en direct depuis Lomé. Merci de nous accompagner. Alors, vous avez multiplié les mouvements d'humeur depuis plus de deux mois. Et malheureusement, les discussions avec le gouvernement n'ont pas abouti conformément aux recommandations de la base. Alors, on en prend que vous venez de reconduire la grève dès mardi 21 février, reconductible si aucune solution n'est trouvée. Sanoukou Joachim, quel avenir scolaire pour vos élèves?
Oui, merci beaucoup. D'abord, la question que vous posez, quel avenir pour nos élèves, doit être destinée au gouvernement. Parce que avant d'être enseignant, nous ne pouvons que mettre au devant l'avenir des élèves pour qui nous nous battons. Et alors, l'avenir de l'école togolaise cette année dépendra bien sûr de la volonté du gouvernement à dénouer la crise. Parce que nous avons fait tout ce qu'il faut de notre part pour que une solution puisse être trouvée. Et je vous rappelle que nous avons marqué des trêves contre la volonté de la base qui n'a jamais voulu que nous marquions un petit répit pour le gouvernement que les gens accusent d'être de mauvaise foi. Alors, si nous ne voulions pas un avenir meilleur aux élèves, on n'allait pas accepter, malgré nous, les trêves multiples que nous avons eues à accepter. C'est une couleuvre qu'on a avalée. Alors, la balle est dans le camp du gouvernement à ce jour.
Justement, alors, Sanoukou Joachim, depuis la grève, les assemblées générales se sont multipliées. Mais justement, pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser tous les enseignants du Togo pour la même cause? Alors, puisqu'il y a des enseignants qui ne respectent pas vos mots d'ordre de grève.
Justement, je vous rappelle d'abord que nous sommes de nouveaux syndicats. C'est un regroupement nouveau. Et nous nous félicitons déjà de la mobilisation qui est en cours. Et il est bien vrai qu'à Lomé, la mobilisation n'est pas comme nous le souhaiterions. Mais je vous dis que sur le plan national, la mobilisation est très forte. La preuve, il n'y a pas eu de pression. Au début, le gouvernement a dit qu'il ne nous reconnaît pas en tant que syndicat. Après, on dit qu'on ne va jamais discuter avec nous hors du cadre qu'on appelle le CPC. Et aujourd'hui, on a discuté avec nous plusieurs fois. On ne parle même plus de cette affaire de licence illégale. Alors, c'est pour vous dire que la pression est forte aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on nous a appelé maintes fois. Et le gouvernement nous appelle à lui accorder encore du temps. C'est vous dire que nous mobilisons un grand nombre d'enseignants. Et je vais vous dire que dans la lutte syndicale, il n'est admis nulle part au monde que tous les travailleurs, tous les travailleurs ne rentrent pas en grève ou que ce soit. Alors, nous sommes en train de nous battre pour mobiliser encore plus d'enseignants, surtout dans la capitale. Et nous nous félicitons déjà. Et nous sommes en train de mener des campagnes de sensibilisation pour enrôler encore un plus grand nombre, puisque ce que nous avons déjà. Et je vous dis que tout là où nous sommes, la base est beaucoup plus mobilisée qu'avant. Dès le début, ça a été un peu faible. Mais au fil des jours, le mouvement prend de l'ampleur. Voilà pourquoi le gouvernement aussi ne baisse pas les bras. Et nous vous dirons dans les heures qui viennent ce que nous entendons dans les coulisses. Okay. Comme quoi le gouvernement est en train de vouloir casser le mouvement. Je vous assure que nous sommes sur les deux pieds.
Le gouvernement est en train de casser le mouvement, mais vous êtes déterminé. Alors, raison pour laquelle, jusque-là, cette pression, le gouvernement la sent également. Alors, qu'est-ce qui bloque vos discussions avec le gouvernement? Sur quel point vous ne vous entendez pas, justement?
Oui, le point crucial sur lequel on ne s'entend pas, c'est bien celui de l'octroi des primes mensuelles. Et le gouvernement nous a dit d'attendre le statut particulier et qui était en train d'être débattue depuis plus de 5 ans au cadre permanent de concertation qu'on appelle le CPC, depuis 2012. Et bizarrement, aujourd'hui, on nous dit encore qu'il faut encore des mois pour pouvoir rédiger ce statut particulier dans lequel on prévoit nous accorder les primes que nous réclamons, que nous revendiquons. On veut faire appel encore des personnes ressources après 5 ans de travaux, vous comprenez. Et nous nous disons que, en attendant qu'on finisse ce travail qui devient un mirage, qui ne finit jamais, qu'on nous accorde juste un forfait, quelques primes en attendant, et la finition du statut particulier que nous attendons éternellement. Voilà là où le gouvernement et nous, d'accord, on ne s'entend pas.
D'accord. Voilà. Et justement, face à cette situation, est-ce qu'on tend vers une année blanche, puisque toutes les négociations avec le gouvernement ont jusque-là échoué, et vous, en tant qu'enseignant, vous non plus, vous ne voulez pas sursoir à ces mouvements d'humeur?
Justement, l'année blanche, nous ne sommes pas sûrs, parce que le gouvernement, nous savons bien que le gouvernement est conscient, et il aime tant ce pays, et comme il le dit, aucun sacrifice n'est grand quand il s'agit de la jeunesse de l'école. Tant vaut l'école, tant vaut la nation, c'est la chanson qu'on nous chante tout le temps. Et nous ne pensons pas que le gouvernement va accepter qu'on aille à une année blanche. Mais au même moment, nous allons accentuer le mouvement. La grève, c'est bien sûr notre moyen de pression le plus efficace. Et dans cette grève, nous avons de multiples, je sais pas, stratégies à adopter. Et je vous dis que nous allons un peu corser les choses cette fois-ci. Nous allons mettre un peu plus d'action dans nos mouvements et nous allons mettre la pression et nous allons commencer par les moins drastiques au plus draconien à partir de mardi. Et nous sommes sûrs qu'une fois cette stratégie mise en application, le gouvernement sera obligé de céder. C'est ce que nous pensons.
D'accord.
Il n'est pas question qu'il y ait une année blanche si le gouvernement le veut bien.
D'accord.
Et si on ne nous satisfait pas dans les semaines qui viennent, le gouvernement sera responsable de tout ce qui adviendra.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup Sanoku Joachim, chargé de l'information de la C7, coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Bonsoir et bon courage.
C'est à vous, merci. À plus tard.
Ben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Trois jours de manifestation avec la présence des organisations de la société civile et aussi des journalistes très connus au Togo. Ceci pour dénoncer la décision inique de la HAC qui a retiré les fréquences du groupe Sud Média. Pour en parler, nous accueillons tout de suite en direct depuis Lomé, Luc Abaki, directeur du groupe Sud Média. Bonsoir Luc Abaki.
Bonsoir Sylvain Amos et bonsoir à tous les amis de la diaspora.
Et justement, et pendant qu'une manifestation est prévue samedi prochain, Samuel Niaoui, directeur en chef de LCF, dans une déclaration, affirmait hier que les collaborateurs de LCF et CTFM privilégient plutôt la voie de négociation. Alors, Luc Abaki, est-ce à dire que les manifestations de 3 jours n'ont eu aucun impact positif sur vos démarches jusque-là?
Non, pas du tout. Je crois que l'équivoque a été levé par la mise au point que j'ai eu à faire hier et les interviews que j'ai accordées à ce sujet. En fait, aussitôt après leur sortie, j'allais dire un peu maladroite, j'ai eu une réunion avec eux et j'ai compris le fond de leur pensée. En réalité, ce n'était pas pour relancer au marches, mais c'était beaucoup plus pour appeler à plus de mobilisation en réalité. En fait, les marches là, ont eu un impact indéniable. Parce que c'est à travers ces marches que le monde entier a été mis au courant de ce qui se fait ici, de par les couvertures qu'il y a eu avec les médias internationaux. Donc je crois que les marches, qui sont d'abord un droit d'expression reconnu par notre Constitution, sont indispensables dans le contexte pareil là. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de remercier tous ceux-là qui se sont mobilisés justement pour cette cause de LCF et de CTFM, notamment les associations de défense des droits de l'homme, la société civile, les journalistes. Vraiment, je voudrais, au nom du groupe Submédia, leur exprimer toute notre reconnaissance et les exhorter à continuer dans cette dynamique-là, parce que justement, ça paye forcément quand il y a ces marches-là. Donc, il y a l'équivoque est vraiment levé. Il faut comprendre tout simplement que le personnel était dans une forme de dépit, et ils ont bien compris qu'il n'y a pas un seul moyen pression qu'on pourrait négliger dans le contexte pareil. Bien sûr, les négociations de couloir sont indispensables, elles sont recommandables, mais il faut forcément explorer toutes les pistes légales possibles afin que le groupe Submedia, notamment la LCF et CTFM, puissent être restaurés dans leur droit, notamment retrouver
d'accord. Leur fréquence. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes toujours dans la logique des manifestations qui sont également prévues samedi prochain à Lomé, au Togo. Et toujours dans cette affaire de fermeture de LCF et City FM, et rappelons que le journaliste Zeus Aziadouvo avait saisi la Cour suprême, lui signifiant, entre autres, l'inexistence d'une plénière entre les membres de la HAC avant la décision de Pitang Tchala. Mais Luc Abaki, depuis lundi dernier, certains journaux publient un PV de la plénière du 18 janvier 2017 pour justement défendre la HAC. Et ce même PV est relayé également sur les réseaux sociaux. Et selon aussi Zeus Aziadouvo, c'est un PV tronqué pour semer le flou. Alors, Luc Abaki, êtes-vous informé de cette situation et quelle est votre réaction?
Justement, nous sommes informés et c'est l'une des curiosités. Voyez-vous, une institution de la République qui fonctionne de la manière là que vous êtes en train de constater. Alors, on brandit un procès verbal qui date du 18 janvier, alors qu'on nous a notifié une décision qui date du 6 février. Alors, mais c'est une incohérence parfaite. Si, à la date du 18 janvier, ils avaient décidé réellement de la fermeture de LCF et de CTFM, la date de notification ou de prise de décision devait être exactement le jour là de cette plénière. Si, deux semaines après, on prend une décision, qu'on signe à cette date-là du 6, ça veut dire qu'à la date du 6, il fallait nécessairement une plénière qui puisse délibérer et qu'il y ait sur la décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel les conseillers qui ont siégé à cette plénière-là. Voilà, le droit, c'est une science. On ne peut pas charlater, on ne peut pas faire de la magie quand il est question du droit. Vous voyez par vous-même toutes les incohérences et toutes les incongruités que nous sommes obligés justement de dénoncer. Et cela explique qu'on puisse aujourd'hui développer ce débat-là sur la décision que la HAC a eu à nous notifier parce qu'elle n'est vraiment pas fondée et ça prouve que vraiment ils sont incohérents. D'ailleurs, j'ai entendu hier le rapporteur de la HAC qui soutenait que cette décision, que la décision de la HAC n'était pas une décision de retrait de fréquence, que c'était une décision administrative et qu'il appartenait à l'ALTP de prendre les dispositions techniques nécessaires. Mais c'est ce que nous avons toujours dit, c'est ce que nous dénonçons. Parce que la HAC n'est pas habilitée justement à prendre une décision de retrait de fréquence. D'ailleurs, la décision qu'ils nous ont notifiée, et il n'y a nulle part où le PV dont il parle là a été visé. Or, il faut viser justement le procès verbal de la plénière à la date de la signature de la décision. Donc, c'est toutes ces incongruités-là qui font que, franchement, nous n'avons plus confiance à nos institutions et nous nous rendons compte qu'elles sont aussi poreuses que frileuses. Et il nous faut absolument œuvrer tous ensemble pour qu'on puisse donner une puissance à nos institutions-là. Et que les gens se départissent de leur considération partisane et qu'ils réduisent les institutions à leur propre personne. C'est malheureux pour une république.
Très malheureux, dommage. Toujours dans cette affaire de fermeture LCF, et Samuel Niaoui, rédacteur en chef de LCF, toujours dans sa déclaration hier, craint que les manifestations soient récupérées par les politiques. Alors, Luc Abaki, comment comptez-vous organiser dans ce cas les prochaines manifestations, notamment celles de samedi prochain? Alors, il faut quand même rappeler qu'on a vu le député de l'opposition, Alphonse Kogo, qui a pris part à une des manifestations à Lomé au Togo cette semaine.
Alors, il faut qu'on s'entende très bien là-dessus. Que ce soit des politiciens, les journalistes, les associations de défense des droits de l'homme ou de la société civile, ils sont des citoyens. Ils bénéficient des produits des médias, notamment de LCF et de CTFM. Donc, comme, si on peut comprendre la crainte qui a été exprimée par Samuel Niaoui, on ne saurait défendre ou interdire aux politiques de manifester leur indignation par rapport à des décisions qui sont incongrues et illégales. Les politiciens sont des citoyens et ils doivent eux aussi agir dans le sens de faire en sorte que les institutions de la République puissent bien fonctionner. Donc, moi, je suis pour que toutes les couches sociales professionnelles, toutes les organisations, tous les partis politiques se mobilisent pour la cause. du groupe Sud Média, parce que aujourd'hui, vous avez vu par le passé, on a fermé les gens d'FM, on a fermé d'abord X-Play, ensuite les gens d'FM. Aujourd'hui, c'est LCF et CTFM. Ça veut dire qu'il y a une démarche de musellement et de restriction de l'espace
Donc, Luc Abaki, vous ne craignez pas que cette situation soit récupérée par les politiques comme le pense, mais comme craint votre collaborateur Samuel Naoui.
Il n'y aura pas de récupération tant que tout ce monde-là reste dans la dynamique d'amener nos autorités à revenir sur leurs décisions. Parce que cette question de récupération, les gens l'ont toujours utilisée comme une arme de défense pour justifier les actes incongrus qu'ils posent. Aujourd'hui, je ne vois pas comment les politiques pourront récupérer une situation qui est connue de tous et qui doit nécessairement être corrigée. Donc, en vérité, il n'y a pas de récupération. Et même si les gens ont tendance à récupérer, nous allons rester vigilants. Parce que la cause, elle est connue de tous et il appartient à tous les citoyens de s'activer pour que la situation soit restaurée. Voilà.
En tout cas, Luc Abaki, merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Bonsoir et bon courage.
Merci, c'est à vous. Hein. Merci et bien des choses à tous nos amis de la diaspora.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Merci de votre fidélité sur le 3xW Radio Canal K.ch, FM Liberté, Radio Dénigment et Ibn Radio. Quelle réforme institutionnelle et constitutionnelle pour le Togo? C'est le travail de réflexion que doit accomplir la nouvelle commission mise en place tout récemment par Faure Gnassingbé. Amadou Abdou Nana Awa Dabouya, qui dirige déjà le Haut Commissariat à la Réconciliation Nationale et au Renforcement de l'Unité Nationale, et médiateur de la République, a entamé une tournée de concertation avec les partis politiques afin de réfléchir sur l'opérationnalisation des réformes politiques. Et bien, pour commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo, nous accueillons deux invités de la diaspora togolaise. D'abord, Serge Duvon, qui est le président de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, Succession Alsace. Et depuis Vienne en Autriche, Dr Yves Ekuya Maïso, il est coordinateur du collectif pour la VD des Unes, CVU, Togo Diaspora. Il est également économiste et consultant. Nous accueillons d'abord Serge Duvon. Bonsoir à Serge Duvon.
Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir le Togo, bonsoir le monde entier.
Merci de nous accompagner en direct depuis la région parisienne. Bonsoir Dr Yves Ekuya Maïso depuis Vienne.
Bonsoir Sylvain Amos.
Merci de nous accompagner également. Serge Duvon, je le disais, vous êtes président de la ANC, Succession Alsace. Justement, votre parti, ANC, est le tout premier qui a eu un entretien avec Awa Nana dans le cadre de la tournée de concertation de H-Kroon. Mais de facto, Jean-Pierre Fabre a réitéré les exigences de l'ANC concernant les réformes, à savoir le respect de la PG signée il y a 10 ans. Alors, certains caciques de UNIR, parti au pouvoir, estiment que cet accord n'est plus d'actualité. Et souvenez-vous, tout comme à nos auditeurs, qu'un membre d'UNIR avait même dit que l'APG était caduque. Serge Duvon, pourra-t-on dire que cette nouvelle commission est vouée déjà à l'échec?
D'abord, je voudrais répondre à ce cacique du RPT UNIR qui a parlé de la caducité de l'accord politique global signé en août 2006. Cet accord signé de façon consensuelle par tous les politiques, par tous les partis politiques qui ont pris part à cet accord à Ouagadougou reste toujours valable et cet accord n'est pas un accord caduque. Cet accord a été signé, je le répète, de façon consensuelle. Et le RPT, d'alors, avait pris sur lui l'engagement de respecter l'accord et de mettre en œuvre tout ce qui a été décidé là-bas. Et la décision, ou bien la mise sur pied de cet accord doit se faire de façon consensuelle, comme cela a été signé. Il revient au président de la République, M. Fornia Sindé, de tout faire pour que cet accord soit mis en œuvre et que le Togo puisse démarrer normalement sur le plan démocratique. Alors, si aujourd'hui, ce même Nassimbé fort veut mettre sur pied une autre commission pour reviser l'accord que lui-même a signé, je ne vois même pas ce pourquoi aujourd'hui on doit même parler de cette commission. Cette commission n'a même pas sa valeur d'être. On ne doit même pas penser à la création de cette commission. Il faudrait seulement une volonté manifeste de M. Fornia Sindé pour que l'accord signé en 2006 soit mis en œuvre. Aujourd'hui, pratiquement 11 ans que cet accord est signé. Mais rien n'est fait. On était parti du CPDC. Du CPDC 1, CPDC 2, CPDC 10, je ne sais même plus quoi dire. Comment se fait-il qu'on prend la décision de mettre en œuvre un accord et puis on remet encore en cause sa propre décision? Ça voudrait dire que notre gouvernement, en tout cas le régime RPT uni, n'est pas un régime qui a le bon foi. Vous voyez, ce régime n'a pas de bonne foi. Ce régime sandinien n'a pas de bonne foi. Il ne veut rien faire pour que ce Togo sur le plan démocratique.
D'accord. On va voir ce que pense également Dr. Yves Kouyamaïso, je le disais. Il est coordinateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU, Togo Diaspora. Il est aussi économiste et consultant international. Il intervient en direct depuis Vienne en Autriche. Dr. Yves Kouyamaïso, cirque autour de l'opérationnalisation des réformes politiques au Togo. Certains observateurs pensent que Fort Nassimbé prépare son quatrième mandat. Quelle est votre réaction?
Écoutez, il y a deux éléments dans ce que vous dites. L'accord politique global date pratiquement de 11 ans, 2006. Un gouvernement, celui de Fornia Sindé, a signé. Il a signé. Il a dit qu'il mettait en œuvre une décision, un accord qui était consensuel. Votre collègue l'a dit tout à l'heure, de l'ANC. Maintenant, il ne l'a pas fait depuis 11 ans. Donc, quel que soit ce que vous voulez dire, que vaut la signature de Fornia Sindé aujourd'hui? Que vaut la parole de Fornia Sindé aujourd'hui? Rien. À partir du moment où vous dites que c'est rien, il y a un problème. Pourquoi des partis politiques togolais croient que Fornia Sindé va mettre en œuvre un accord politique global? Pourquoi voulez-vous que ce soit telle ou telle commission, que ce soit nationale, internationale, rwandaise ou autre, qui va bien sûr perdre du temps, c'est ce qu'on appelle la gouvernance du dilatoire, va amener à gagner du temps pour aller jusqu'en 2020 et entre-temps, proposer un autre accord. Un accord à la rwandaise où l'autocratie est maître du jeu. Donc, si les partis politiques et si une partie de la population togolaise continue à croire que Fornia Sindé va appliquer un accord politique global de 2006 qu'il n'a jamais appliqué depuis 11 ans, alors libre à chacun de croire que la signature de Fornia Sindé, que la parole de Fornia Sindé, vaut quelque chose.
Mais docteur Yves Amaïso, vous l'avez suivi certainement, hein, Robert Doucet tout récemment l'a dit, hein, il y a deux ou trois jours, si je me rappelle, il a dit que Fornia Sindé n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir.
Je viens de vous dire que Fornia Sindé n'a pas de signature. Fornia Sindé n'a pas de parole. Écoutez bien. Son papa a dit qu'il quittait le pouvoir et que c'était la parole d'un général. Est-ce qu'il a quitté le pouvoir? Non. Donc la parole et la signature du papa ne vaut rien. Et le fils vient de démontrer après 11 ans sur l'accord politique global accepté de manière consensuelle par le peuple togolais et ceux qui l'ont signé, qu'il ne veut pas respecter ce qu'il a signé et ce qu'il a dit. Maintenant, vous me dites que quelqu'un, ce n'est même pas Fornia Sindé, quelqu'un dit que celui-là qui n'a pas et qui ne respecte pas sa signature ni sa parole nous dit qu'il va quitter le pouvoir. Que vaut la parole de quelqu'un qui a dit que quelqu'un qui ment dit la vérité? Il faut répondre à ce problème d'abord. Que vaut la parole de celui qui a dit que celui qui ment dit la vérité?
C'est la grande question. Merci. On va relancer le débat avec notre deuxième invité qui n'est autre que Serge Duvon, président de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, sous-session Alsace. Et Serge Duvon, aujourd'hui, il est clair pour bon nombre de Togolais, comme vient de le dire également Dr. Yves Amaïso, que ces réformes politiques ne pourront pas être faites et selon justement les aspirations profondes du peuple. Alors, une unicité d'action et de l'opposition s'impose donc. Alors, Nicolas Lorsson et le groupe de 6 partis politiques, et voire également CAP 2015 s'active, hein, Tiki Achadam du BNP, quant à lui, exhorte tous les partis politiques à se mobiliser pour, voir dans quelles conditions la population pourrait être massivement mobilisée. Alors, croyez-vous sincèrement à cette unicité d'action, Serge Duvon?
Oui, une unicité d'action est possible. Mais une fusion de l'opposition aujourd'hui n'est plus possible. Je répète, une unité d'action pour obliger le pouvoir sanguinaire, cinquantenaire de Faure Gnassingbé à céder et à opérer les réformes pour que nous puissions avoir le changement au sommet de l'État. Je vais parler de l'alternance au sommet de l'État, est possible. Mais fusionner aujourd'hui tous les partis de l'opposition dans un même fossé pour dire que nous voulons mener une lutte commune et unitaire n'est plus possible. Parce que nous avons déjà vu et nous avons déjà expérimenté de par le passé ce que c'est que l'union de l'opposition. Et vous avez vu tout ce qui s'était passé. Pour nous, aujourd'hui, nous comptons sur la synergie des partis politiques et nous nous sommes retrouvés au sein du CAP 2015. Et nous disons que nous menons nos actions parce que nous nous entendons très bien. Mais si aujourd'hui vous prenez le groupe des 6, ceux-là aussi se comprennent qu'ils ont pris une décision, c'est-à-dire mener une action commune. Alors, s'ils se joignent au CAP 2015 pour que nous puissions mener une unité d'action, c'est possible. Mais nous n'allons pas être fusionnés pour pouvoir former un groupe unique en disant que nous avons comme objectif ceci, ceci, cela. Non, ils ont leurs objectifs, nous avons nos objectifs, mais nous avons un objectif commun. Renverser le dictateur qui est en face de nous. C'est ça ce que nous disons. C'est ça pourquoi aujourd'hui, nous demandons à tout le peuple togolais de se joindre à l'unité d'action de l'opposition. Il y a une chose et une seule que les Togolais ou les Togolais ne comprennent pas. Quand on parle de l'opposition, moi, ça c'est à mon humble avis, on parle de tous ceux-là qui sont fatigués du régime FPTI. On ne parle pas des partis de l'opposition. L'opposition togolaise, c'est tous ceux qui sont contre le régime FPTI, de sa manière de gouverner, de sa manière n'est pas de diriger le pays. Mais les partis de l'opposition sont ces partis reconnus légalement et qui sont aussi contre l'action gouvernementale. Donc il revient aussi au peuple qui s'oppose au gouvernement de se joindre à l'action des partis politiques pour que nous puissions former toute une opposition. Mais aujourd'hui, ce qui se passe est que des gens tire à boulette rouge sur les partis de l'opposition en disant que les opposants ne font rien. Mais qui sont les opposants? Les opposants ne sont pas seulement ceux-là qui sont membres des partis politiques de l'opposition. Mais c'est tous ceux-là qui se sentent brimés par le régime FPTI. C'est ce pourquoi, en réponse à votre question, je dis que l'unité d'action est possible. Nous allons mener une action commune. Mais il faudrait que les partis qui veulent pour nous mener cette action commune-là, soit des partis de l'opposition, soit que ce ne soit pas des partis qui se réclament de l'opposition. Non, ça, on n'acceptera pas.
D'accord.
Parce qu'il y a des partis qui se réclament de l'opposition, mais qui ne sont pas de l'opposition vraie. Vous voyez, on va commencer une action encore, et c'est les mêmes partis qui iront se joindre au pouvoir pour pouvoir dénoncer l'action unitaire que nous voulons faire. Non, ce n'est pas tout parti qui se réclame de l'opposition que nous allons accepter comme parti de l'opposition.
D'accord.
Mais c'est ceux-là qui sont les opposants.
D'accord.
Et qui s'opposent au régime que nous acceptons comme parti de l'opposition. Et avec eux, nous mènerons une action unitaire et unique.
D'accord. Voilà. Docteur Yves Kouamaïso, vous avez suivi Serge Duvon, président de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, sous-session Alsace. Hein. Une unité d'action est possible, mais pas avec tous les partis de l'opposition. Il faut voir avec quel parti travailler. Alors, est-ce que vous croyez, vous connaissez bien, même étant de la diaspora, vous connaissez bien cette position-là, vous suivez de près l'actualité sociopolitique au Togo. Alors, quelle est votre réaction, bien, quelle analyse faites-vous sur cette unité d'action que beaucoup de Togolais espèrent pour pouvoir obtenir ces réformes politiques au Togo, Dr Yves Kouyamaïso?
Alors, sur le premier point, l'unité d'action pour permettre à ce régime soit de partir dans des conditions honorables, soit par la force avec la CDAO ou tout autre moyen, est une nécessité. Donc il n'y a pas de débat, en tout cas pour ceux qui veulent le changement, sur la notion d'unité d'action. Le problème se pose quand vous allez choisir les individus ou la représentation de ce groupe qui souhaite le changement. Et là, vous avez un problème de fond. Vous avez des gens honnêtes qui cherchent et qui souhaitent ce changement, qu'ils soient dans les partis politiques ou pas, et qu'ils soient dans la diaspora ou pas. Ensuite, vous avez des gens, peuple togolais, qui eux estiment que le régime, on peut s'en accommoder. Et donc, ils font du chantage à ce régime sous plusieurs formes. Une des principales formes, c'est de dire « payez-moi et je vous soutiens ». Donc le régime l'a compris, et le régime met de l'argent sur la table, paye jusqu'à payer des journalistes, paye en catimini des dirigeants de partis, politiques ou pas, dirigeants de structures non gouvernementales ou pas, etc. Et vous avez une troisième catégorie, ce sont des gens qui, au fond, se disent « tout ceci ne me concerne pas ». On n'a pas de sondage au Togo, mais vous voyez déjà que ceux qui s'accommodent du régime et ceux qui disent que, écoutez, moi je peux vivre avec ou ça ne m'intéresse pas, sont beaucoup plus nombreux que ceux-là qui veulent en fait réellement s'engager et vouloir ce changement. Dès que vous avez cette inégalité statistique, en réalité, ce que propose l'ANC ou d'autres, que l'ensemble du peuple puisse s'unir à leurs actions, reste difficile. Parce que compte tenu de l'ignorance d'une grande partie de la population, compte tenu de la pauvreté d'une très grande partie de la population, et des inégalités, sans compter les brimades et les humiliations quotidiennes de ce régime sur nos populations, il est difficile de dire et de demander à quelqu'un qui a faim d'aller battre le pavé ou de s'engager, alors que systématiquement, tous les jours, ils subissent l'état du prince, c'est-à-dire tout ce qui peut être des énormalités par rapport au droit, quel que soit le droit. On l'a vu récemment avec les journalistes, vous venez d'en parler avec les enseignants, on peut multiplier les exemples. Donc, la question est beaucoup plus profonde. Que souhaitent réellement ceux qui se disent partis d'opposition, quels qu'ils soient, aujourd'hui au Togo? Parce que se contenter de dire on veut garder l'accord politique global d'il y a 11 ans, ou de dire on veut seulement qu'il s'en aille, c'est une chose sur laquelle beaucoup peuvent être d'accord, mais en réalité, on ne trouve pas l'élément unitaire, puisqu'on parle bien de l'unité. Il faut donc trouver soit un programme, soit une plateforme, soit quelque chose qui permette à l'ensemble des Togolais et Togolaises d'y adhérer. Et on n'adhère pas obligatoirement à de la violence, parce que faire partir Faure Gnassingbé, avec force ou sans force d'ailleurs, c'est fondamentalement un élément sur lequel beaucoup de Togolais, peureux ou non peureux, ne vont pas s'engager. Et nous le voyons depuis plus de 50 ans. Donc il s'agit de trouver un moyen de faire comprendre à ce peuple qu'il subit le fait d'accepter ce qui est inacceptable. Et on le voit par les statistiques. Le Togo, Faure Gnassingbé, est le seul rescapé dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest de ce qu'on pourrait appeler les autocrates. Le dernier ou l'avant-dernier était, en fait, Yahya Jammeh, que 7000 troupes, 7000 soldats ont dû forcer par moyen de pression à faire partir. Il n'est d'ailleurs pas parti comme ça, puisque par des systèmes ésotériques, il a envoyé 4 chiens pour manger le fils de 8 ans du nouveau président de Gambie. Donc il faudrait voir que oui, il faut l'unité d'action, Mais les moyens de cette action ne pourront pas passer par juste des injonctions. Il va falloir trouver quelque chose qui unifie ou qui réunifie l'ensemble de la population au-delà des partis politiques. Au-delà des partis politiques.
D'accord, d'accord.
Et au-delà, en fait, tout simplement, de la peur. Parce qu'au fond, c'est bien la peur qui crée ce sentiment-là.
D'accord. Ok, merci pour cette analyse sur cette unicité d'action au niveau de l'opposition et même au niveau de la société civile. Et, togolaise, Serge Duvon, vous êtes en direct depuis la région parisienne et tant de la diaspora. Comment cette mobilisation va se faire au niveau de l'ANC internationale?
Je rectifie, Monsieur Sylvain, je suis en direct depuis la ZAP, je suis de Mulhouse. Je suis à Mulhouse en France, ce n'est pas de la région parisienne.
Vas-y.
Voilà. Oui. Voilà, donc, cette unité d'action dont je parle, ça va partir de n'importe où. Ça va partir du Togo, ça va partir aussi de la diaspora. C'est ce pourquoi, ici, je lance d'abord un appel pressant et solennel à tous les Togolais, épris de démocratie et de paix, pour que nous puissions nous unir, afin de faire bouger les lignes. J'en appelle aujourd'hui, tout ce qui est maintenant, aux brigands, aux drogués, aux alcooliques, aux démunis, aux personnes âgées, aux jeunes, aux apprentis, aux militaires, même aux caciques du régime FPT d'Unir, même aux membres du FPT d'Unir aujourd'hui, au-dessus, pour la question déçue par la manière de gouverner du FPT d'Unir, de s'unir dans un même fossé pour que nous puissions faire bouger les lignes. Mais ici, dans la diaspora, moi, je vais profiter de cette occasion pour vous faire comprendre que, au sein de l'ANC, nous nous sommes déjà mobilisés. C'est ce pourquoi, de partout, vous allez voir que nous essayons de mettre sur pied nos sous-sections pour pouvoir être prêts pour la bataille. Nous sommes toujours prêts pour la bataille. Nous avons été toujours prêts pour la bataille. Nous demeurons toujours prêts pour la bataille. Mais je vais profiter de vos antennes pour lancer un appel pressant à nos frères qui sont en Suisse, que nous voudrons mettre sur pied notre sous-section suisse. Et donc, tous ceux qui se réclament, pas seulement de l'ANC, mais tous ceux qui veulent que les lignes bougent, tous ceux qui veulent que les choses changent, nous leur lançons tant pour moi un appel solennel. Nous voulons créer une sous-section en Suisse. Donc, tous ceux qui écoutent ma voix aujourd'hui, il faudrait qu'ils sachent dès à présent que dans les prochains jours, déjà au mois de mars, nous allons venir en Suisse. Si je dis nous allons venir en Suisse, c'est parce que justement, il y aura une délégation de la Fédération internationale qui va quitter Paris pour venir en Suisse pour les rencontrer. Mais nous allons encore profiter de nouveau des ondes de vos médias pour pouvoir leur donner le jour exact où nous serons là. Donc, partant de là, nous demandons à tous ceux qui veulent que les choses bougent, de s'apprêter, parce que justement, l'ANC sera sur le territoire suisse, un petit peu, pour que nous puissions mettre sur pied notre sous-section. Donc, tous ceux qui m'écoutent et qui sont de l'ANC, qui ne sont pas de l'ANC, mais qui veulent aussi adhérer à notre parti, qu'ils n'hésitent pas. Nous serons là, ici, pour que les choses puissent bouger. Donc, merci Sylvain, d'accord. Et merci à tous ceux qui nous ont aussi écoutés.
Merci également à toi ou à vous, Serge Duvon, président de l'ANC, sous-section Alsace. Vous intervenez en direct depuis Mulhouse, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, la mobilisation continue donc très prochainement au mois de mars. Comme vous venez de le dire, la sous-section ANC Suisse va se former. Donc, j'espère que cette émission sera bien informée et on sera avec vous pour cette mobilisation au niveau de la diaspora. Merci et bonsoir, Serge Duvon.
Bonsoir. Au revoir.
TogoCity.com, ICiLomé.com, TogoActualité.com, Togo-online.co.uk, CRDTogo.com sont nos sites partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Merci de votre fidélité sur le 3xW. canalk.ch et ses radios partenaires. Docteur Yves Kouyamaizo va rester et va commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo avec nous. Mais Docteur Yves Kouyamaizo, commençons d'abord par une question d'actualité qui concerne justement l'économie du Togo, puisque c'est aussi votre domaine. Et selon des informations, la dette du Togo a atteint 75% du PIB. Et en tant qu'économiste, quel étude faites-vous de l'économie togolaise en général et de l'endettement du pays en particulier, malgré ses innombrables ressources, Yves Kouyamaizo?
Alors, c'est une question qui revient toujours et régulièrement. Il faut que je commence d'abord par un exemple. Quand un Togolais ou une Togolaise achète sa maison, le coût de cette maison ne peut pas se payer avec un salaire de un mois. Donc ce Togolais, Togolaise va prendre un crédit. S'il a un apport, il rajoute et il va payer sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il a donc contracté une dette qu'il va maintenant payer avec un peu d'intérêt sur 20 ans, 25 ans. Le Togo n'est pas différent. Quand le Togo choisit de faire quelque chose, il choisit un projet. Et généralement, il n'a pas l'argent suffisant. Donc, il va faire du crédit, ou il peut faire appel à des partenaires, investisseurs quand c'est des privés, d'autres États qui le soutiennent, mais il doit rembourser. Donc, on mesure la bonne gestion, la bonne gouvernance d'un État à deux choses. On peut rajouter beaucoup de choses, mais je vous en dirai deux aujourd'hui. La première, c'est que le projet qui a été choisi est un projet qui profite à la population togolaise, dans son ensemble. Donc vous voyez déjà que quelqu'un qui choisit d'aller acheter des voitures de course au lieu de choisir un dispensaire dans un village, a déjà fait un choix qui peut ou pas aider le peuple togolais. Et ce choix existe au Togo, puisque c'est le président de la République qui a une voiture de course qui aurait pu être remplacée par un dispensaire. Deux, une fois qu'il a fait ce choix, qui n'est d'ailleurs pas démocratique, donc qui ne soutient pas les populations, il va falloir maintenant, puisqu'il s'est endetté, rembourser. Il rembourse avec l'argent des contribuables et des recettes en général de l'État togolais. Donc il vient de faire deux opérations, un mauvais choix du projet, et fait que l'endettement a établi et prend des recettes qui auraient pu être affectées à autre chose. Le problème, ça c'est un exemple. Si vous en mettez 10, 20, 50 et 100, vous voyez qu'il y a une accumulation de la dette. Et c'est cette accumulation à laquelle on donne une limite. Donc, nos amis de la sous-région, l'UMOA, la CDAO, ont estimé qu'il ne faudrait pas en principe dépasser les 60%. Le Togo est à 75%, comme vous le dites, et légèrement au-dessus, nous pensons qu'on est à 77%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Togo n'a plus de capacité, en fait, pour emprunter. Donc, du coup, il ne peut plus choisir d'abord des projets pour lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui va lui prêter de l'argent, qui va choisir des projets pour lui, d'où une perte d'indépendance. Le Togo est devenu, donc, de moins en moins indépendant. C'est ça que ça veut dire l'endettement à 75%. Donc il dépend de l'extérieur. Donc ça veut dire que le régime, pour pouvoir s'en sortir, va s'aligner sur les positions de l'extérieur, va s'aligner sur les positions des investisseurs ou les dits investisseurs étrangers, va donc satisfaire les intérêts des étrangers avant les intérêts de la population togolaise.
Je vous demandais aussi, d'abord, quels sont les...
un endettement
exactement
à 75%.
Et quelles sont les conséquences pour le Togo, selon vous,
en tant que... Les conséquences sont évidentes, puisque dès lors que vous êtes devenu dépendant de quelqu'un de l'extérieur, vous ne pouvez plus choisir des projets qui arrangent la population. Dès lors que vous n'avez pas une capacité d'emprunt complémentaire ou supplémentaire, vous ne pouvez plus choisir des projets pour les populations togolaises. Pire, quand vous devez maintenant rembourser le service de la dette, ce service de la dette prend de l'argent des Togolais, puisqu'il s'agit des impôts, et au lieu de résoudre un problème des Togolais, canalisation, faire des WC, mettre de l'eau propre à boire, avec des universités, réparer ceci ou cela, la maintenance des routes, non, on va le donner, en fait, pour rembourser un prêt qui profite en fait à des étrangers. Donc quelle est la conséquence? Le Togolais s'appauvrit. On le voit d'ailleurs quand on regarde la croissance au Togo, la croissance par habitant. Ils ont choisi le Rwanda, mais c'est la moitié moins rapide que pour le Rwanda. Donc quel que soit ce qu'on peut dire sur le Rwanda satisfait mieux sa population, en tout cas deux fois plus que le Togo.
D'accord, on va quand même revenir, on va en parler tout à l'heure, et puisque vous êtes là pour commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo avec nous, justement, Dr Yves Kouya Maïzo, dans un communiqué publié lundi dernier au Togo, l'État togolais a promis d'indemniser à hauteur de 2 milliards de francs et environ 3 millions d'euros les victimes des tristes événements violents qui ont secoué le Togo entre 1958 et 2005. Docteur Yves Kouya Maïzo, selon vous, le dédommagement des victimes va-t-il contribuer à une vraie réconciliation au Togo?
Je vais répondre à votre question. Mais, bon, vous êtes pas, c'est pas votre faute, vous êtes journaliste. Mais je dois clarifier deux choses. Je ne suis alors pas du tout d'accord avec la date, c'est-à-dire 1958 à 2005, et je ne suis pas du tout d'accord avec le mot utilisé qui est dédommagement.
D'accord.
Je vais vous expliquer.
Allez-y.
La période de 1958 à 2005 exclut les crimes et autres exactions, y compris les impunités qui sont imputées à M. Faure Gnassingbé. Autrement dit, M. Faure Gnassingbé n'a rien fait. Autrement dit, M. Gnassingbé, Faure, le fils, n'a jamais fait de crime, n'a jamais fait d'exaction, n'a pas commis quoi que ce soit. Donc, il n'y a en fait pas, d'après lui, de dédommagement à donner depuis 2015, qu'il est officiellement, 2005 qu'il est officiellement au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que ça veut d'abord dire, vos dates. Maintenant, le mot dédommagement, il faut faire très attention. Le mot dédommagement, c'est que vous voulez accorder un avantage matériel ou moral, pour lui donner un prix par exemple, et c'est le pouvoir hein, qui décide, donc Faure Gnassingbé. À qui? Aux gens qui sont morts? Les gens qui sont blessés? Les gens qui sont handicapés? On ne sait pas trop. Leurs familles? Leurs ayants droit? Pourquoi? Pour des crimes, pour des exactions faites donc durant cette période-là, sous forme d'indemnité ou une compensation. Mais indemnité et compensation, nous sommes en économie, il va falloir qu'on calcule quelle est la valeur de la vie de celui qui a été tué. Quelle est la valeur de la famille qui reste alors que ce monsieur ou cette madame travaillait et n'a plus ce salaire qui rentre? Quelle est la valeur de l'enfant dont le papa ou la maman vient de mourir à cause des crimes de ce régime, qui ne pourra pas aller à l'école, encore moins trouver du bon travail, alors même aller à des meilleures universités. Donc s'il s'agit d'un lot de consolation, mais les églises sont là pour ça. Mais après avoir pleuré, la situation quand vous rentrez à la maison, mais elle est la même. Vous n'avez toujours pas la personne qui a été tuée, blessée, handicapée ou qui a subi des brimades. Alors là-dessus, il faut aller dans le détail. Mais il y a des gens qui ont été expropriés abusivement au Togo, leur terrain, leur maison. Il y en a qui ont perdu leurs emplois, on les a mis dehors, manu militari. Je ne parle même pas de ceux qui sont en prison, qui peut-être nous écoutent. Je ne parle pas des humiliations diverses, hein, des femmes qui ont été violées. Donc, on peut aller dans le détail. Mais revenons à nos amis d'aujourd'hui, les journalistes, qu'on tabasse parce qu'ils font leur métier de journaliste à donner de l'information. Simple. On peut aller encore très loin, qu'on ferme des radios, télévisions au Togo. Alors qu'on nous dit que dans un État libéral où chacun a le droit en fait de s'exprimer. Et si on n'est pas d'accord, ben écoutez, on dit le contraire sur une autre chaîne de radio ou télévision où on va au tribunal. Donc l'état de droit est devenu l'état de droit de Gnassingbé et Yadema. Donc il y a un droit spécial qui s'appelle le droit de Gnassingbé et Yadema. C'est ce droit-là qui va donner des compensations, qui va donner des dédommagements. Et s'il décide de ne pas les donner? Et s'il décide de vous donner que la moitié? Si vous décidez de ne rien donner du tout, puisque c'est ce qui se passe pour les gens qui ont eu leur maison cassée, alors, c'est qu'il va falloir faire attention.
Exactement.
C'est un solde de tout compte en économie. On vous donne des miettes, et c'est fini. Mais si je vous donne une banane, pour dire que voilà, on fait le compte, le solde de tout compte, de tous les crimes depuis 1958 jusqu'à 2005, est-ce que vous allez accepter? Bon. Vous voulez négocier? Je vous donne un régime de bananes. Bananes plantains. Je rajoute l'huile. Je rajoute le riz fort. Vous allez accepter? Voilà, ce sont des alibis.
Exactement. Alors, docteur Yves Kouamaison, peut-on voir dans cette décision d'indemnisation ou de dédommagement une volonté de finir avec la violation des droits de l'homme et les exactions sans cesse commises sur le peuple togolais?
La réponse est non. La réponse est clairement non.
Okay.
La raison est simple. Quand vous dites une volonté, vous avez tout dit, une volonté. Est-ce que M. Fornia-Singwe, son régime militaro-civil, les militaires non-républicains qui le soutiennent, sont volontaires et ont la volonté d'en finir avec les droits de l'homme? Les policiers, ou je ne sais trop qui a tapé le journaliste qui faisait son travail, et qui ont donc commis une violation des droits de l'homme, ils ont-ils la volonté de changer? Non. Ce pouvoir de la force, ce pouvoir des abus du droit, il existe. C'est une dissuasion. Comme la France a sa bombe atomique, c'est la bombe atomique de Fornia-Singwe. C'est-à-dire que dès lors que quel que soit ce que vous êtes ou ce que vous voulez faire va déranger les intérêts de Fornia-Singwe, de son régime et ceux qui le soutiennent, il faut vous attendre à ce qu'il y ait une violation des droits humains dans toutes les formes que ça peut prendre. Donc, on ne peut pas maintenant mettre en cause un système, parce qu'il s'agit d'un système dans lequel, chaque fois que vous allez mettre en jeu les intérêts du système, vous allez prendre directement une violation des droits humains, qui peut être très brutale, violente, jusqu'à la mort d'un certain nombre de Togolais. Beaucoup ont fui, beaucoup sont à l'étranger, on le connaît bien dans la diaspora. Donc, le système fonctionne sur la base d'une légitimité basé sur la force militaire brutale. Il faut le dire clairement, brutale. Maintenant, il y a le peuple togolais, une partie en tout cas, s'en accommode. Écoutez, on fait avec, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait ici au Togo, écoutez, on est en Afrique, on fait comme on veut, etc. Donc, je rappelle encore une fois, quand on viendra prendre sa maison, son enfant, et qu'on aura détruit sa vie, il faut qu'il accepte une banane, au pire un régime de banane, plantain, au pire avec un peu d'huile. Et c'est tout. Donc non, ce régime n'a pas de volonté d'en finir.
D'accord.
Mais encore une fois, fait semblant.
Oui. C'est juste. Revenons un petit peu encore sur l'accord politique global et les questions autour des réformes politiques au Togo. Awa Nana Dabuya et ses collaborateurs du H-Kroun ont entamé une mission d'échange avec les acteurs politiques pour échanger autour de la mission autour de la mission à eux assignée par Fornia-Singwe. Et justement, selon l'ANC, l'APG a déjà et reste toujours d'actualité, comme vous l'avez également dit tout à l'heure. Le H-Kroun veut s'inspirer du cas rwandais en matière de réconciliation et de réforme politique et institutionnelle. Docteur Yves Kouamaïso, que vous inspire cette démarche du H-Kroun?
Bon, vous savez, beaucoup de gens ne savent pas ce que vous dites là. Le Haut Commissariat à la Réconciliation Nationale, il faut toujours dire ça comme ça. Il s'agit d'une structure qui veut faire la réconciliation nationale. Bon. Pour le faire, il y a un accord politique global signé en 2006, depuis 11 ans donc, qui n'est mis en œuvre, soyons gentils, à 10%. Donc 90% n'a pas été mis en œuvre. Qu'on soit précis, limitation du mandat, à 2 ans, ils l'ont fait sauter. Le mode de scrutin, ils l'ont changé, 1 tour au lieu de 2 tours. La question de l'ensemble des contentieux du code électoral, les contre-vérités des urnes, quelqu'un a gagné, on dit que c'est quelqu'un d'autre a gagné, on dit que non, c'est nous qui avons gagné, tout cela n'est pas réglé. Donc, je vais résumer. L'accord politique global de 2006 n'a fait que dire une seule chose, c'est d'aller chercher la vérité des urnes au Togo. Et Fornia-Singwe l'a signé. Attention, son régime, son pouvoir politique, son parti politique de l'époque l'ont signé. Donc la question est de savoir aujourd'hui, quand on dit que est-ce que l'accord est caduque, non. Un accord signé par consensus et par l'ensemble des acteurs de l'époque ne peut pas être caduque. On peut peut-être l'améliorer, le modifier. Encore une fois, on revient à votre question. Est-ce qu'il y a une volonté de l'ensemble des partenaires de l'améliorer? Certainement que oui. Mais il y a un partenaire, lui, qui a un droit de veto qui s'appelle Fornia Singbe, qui l'a déjà modifié. C'est ça le problème de l'accord politique global. Il a déjà modifié.
D'accord.
L'accord politique global n'a jamais dit de faire des élections à un tour. L'accord politique global n'a jamais dit qu'après deux mandats, on reste encore au pouvoir. Vous voyez ? Donc, ça a déjà été modifié. Donc, quand vous dites que c'est caduc, mais pour Fornia Singbe, c'est caduc depuis le début, puisqu'il ne l'a jamais appliqué. C'est des caducs pour Fornia Singbe depuis le début.
D'accord. Maintenant,
qu'un parti politique, ANC ou d'autres, disent que ce n'est pas caduc. Mais il faut avoir la force militaire pour l'appliquer.
Exactement. On va revenir un petit peu sur la question que j'avais soumise tout à l'heure. Donc, cela ne doit pas nous échapper. Le H-Clown, hein, le Haut Commissariat à la Réconciliation Nationale et au Renforcement de l'Unité Nationale, veut s'inspirer du cas rwandais en matière de réconciliation des réformes politiques et institutionnelles. Que vous inspire cette démarche du H-Clown? C'était la question.
Oui, bon, vous ne pouvez pas sortir cette question de son contexte. Je vous dis que ça fait 11 ans qu'on cherche à faire la réconciliation, les réformes politiques, institutionnelles, administratives au Togo. 11 ans. Hein, on a fait le CVJL, hein, toute une structure avec les églises. Est-ce que ça a donné quelque chose? Non. On a fait du papier, de bons papiers, mais ça n'a rien donné. Bon, on a fait venir des intellectuels, des experts togolais, des professeurs. Est-ce que ça a donné quelque chose? Non. Maintenant, on quitte le national pour aller au niveau international, et on choisit le Rwanda. Ils sont venus, ils vont partir, ils vont prendre un rapport. Les trois structures que je dis là, ces différentes discussions, il faut vous poser une seule question. Qui les a initiées, Fornia Singbe? Qui c'est qui paye les gens qui vont écrire ou rédiger Fornia Singbe? Donc quelqu'un qui vous paye, qui vous donne à manger, mais vous pouvez lui dire des choses qui ne lui plaisent pas. Si on vous donne à manger, est-ce que vous pouvez dire le contraire de ce que pense Fornia Singbe? La réponse est non. Donc, d'une chose l'une, vous faites des compromissions stratégiques, et là, il faudra revoir aux églises, aux ecclésiastiques, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'on peut très bien faire des accords et des papiers très bons, CVJR, et après dire qu'on n'est pas responsable parce qu'on n'a pas eu l'argent pour mettre en œuvre. C'est des formes de compromissions stratégiques. On peut être des partis politiques, ah, je vais aux élections présidentielles, et quand les choses vont mal et qu'on m'a roulé, et que ça ne marche pas, je crie, mais je refuse juridiquement de contester la décision. Donc, j'avalise. Donc, on a accepté, bah, les partis politiques ont accepté, ceux qui sont allés au pouvoir, aux élections, la contre-vérité des urnes. Qu'ils crient tous les jours, c'est bien, mais sur le plan du droit, ils ont accepté. Et c'est ce que dit la communauté internationale ici. Vous allez à l'ONU, c'est marqué, le Togo a une opposition qui a accepté. Il faut qu'ils le sachent. Ils ont accepté. Il ne faut pas qu'ils trompent la population togolaise. Ce qu'ils racontent localement, c'est faux. Ici, ils ont accepté. Pour ne pas accepter, vous devez aller au niveau de la Cour constitutionnelle, vous devez déposer une plainte, même si la plainte est rejetée. Vous l'avez déposée. Et à ce moment-là, on reconnaît que vous n'êtes pas d'accord avec les résultats. Et pour finir avec votre au conseil, là, mais ces gens qui parlent beaucoup, je vous rappelle que la présidente fait le cumul de plusieurs postes, et qu'elle touche beaucoup d'argent pour ça d'ailleurs. Donc comment quelqu'un qui est au niveau du Haut Commissariat à la Réconciliation Nationale, comme vous dites le H-Crew, qui n'a que ce qu'on appelle un avis non lié, vous savez ce que ça veut dire en droit? Vous racontez ce que je veux, et ou bien vous racontez ce que vous voulez, et moi j'en fais ce que je veux. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. On s'en fout, qu'on soit dans un bon français. On s'en fout ce que dit le Haut Commissariat à la Réconciliation Nationale. Il faut que les Togolais le sachent.
Exactement.
Un avis non lié, en fait, c'est du dilatoire. Ça permet de gagner du temps,
d'accord,
ça permet d'occuper les journalistes, ça permet de faire parler beaucoup de gens, les gens peureux vont courir dedans qu'il faut discuter, beaucoup de gens des partis politiques écoutent, il faut absolument faire un effort pour y aller, oui, et vous gagnez, vous perdez le temps. Ça fait 11 ans, hein, faut pas oublier.
Ça fait 11 ans. Exactement. Donc nous sommes toujours avec cette discussion autour de ces réformes-là. L'H-Clown veut s'inspirer du cas rwandais, mais justement le Rwanda avait connu un génocide suivi d'une crise sociopolitique. Et ce qui n'est pas quand même le cas du Togo. Et certains analystes politiques doutent déjà de cette démarche du H-Clown et estiment plutôt que le pouvoir cacherait quelque chose dans cette démarche. Quelle est votre lecture, Dr. Yves Kouamaïso?
Bon, Commençons par le commencement. Le H-Group n'a rien dit du tout. C'est M. Fornia Singbe qui a décidé de donner une mission au H-Group. Donc, le H-Group n'est qu'un instrument de M. Fornia Singbe. Donc, laissons H-Group tranquille et remontons à celui qui prend la décision. M. Fornia Singbe. Bon. Ce M. Fornia Singbe, depuis 11 ans, a signé un accord qu'il ne respecte pas. Donc, il ne respecte pas sa signature. Depuis 11 ans, il a dit qu'il allait le mettre en œuvre devant la communauté internationale. Il n'a pas respecté. Donc, que vaut, et je reviens dessus, que vaut la signature et la parole de M. Fornia Singbe aujourd'hui dans ce contexte? Rien. Donc, le pouvoir, en fait, cache des intentions. On ne peut pas lui en prêter puisqu'on ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas celui de mettre en œuvre après 11 ans. Après 11 ans, des accords politiques. Alors, de deux choses l'une, quand on va chercher quelqu'un de l'étranger, le pouvoir a le droit de choisir qui il veut. Ils ont choisi des experts du Rwanda. Mais certainement, c'est des très bons experts d'ailleurs. Mais le problème du Rwanda, pour ce qui est du Togo, c'est quoi? Le Rwanda, le président du Rwanda, ne respecte pas les deux mandats qui lui étaient assignés. Voilà pourquoi ils ont choisi le Rwanda. Laissez tomber les génocides et tout ça. Il ne respecte pas ce qui est la constitution. Il l'a modifié. Il a dit d'ailleurs que c'est le peuple. Oui, d'accord, le général Yadema l'avait dit aussi, Mobutu l'avait dit aussi, et tous les autocrates l'ont dit aussi. Donc, il s'agit, en réalité, dans le cas pire, de mettre en cause l'accord politique global sur une base d'une affirmation unilatérale d'obsolescence. On vous dit que c'est vieux, on vous dit que c'est vintage. Mais qu'est-ce qui est vintage? L'accord politique global de 2011 ou le régime de Fornia Singbe qui a plus de 50-60 ans? Qui est vieux? Qui c'est qui fatigue les Togolais? Qui c'est qui empêche les Togolais de dormir? C'est ça la question. Alors il y a un deuxième élément. Si jamais on n'arrive pas à éliminer l'accord politique global, quelle que soit la forme, puisqu'on le traite déjà de vieux, puisque les vieux, quand ils sont vieux, ils meurent, donc l'accord, puisqu'il est vieux, il va mourir, il faut se poser la question si le régime de Fornia Singbe n'est pas vieux aussi, plus de 50 ans, et qu'il devrait mourir, par la meilleure façon, c'est-à-dire qu'il démissionne.
Justement, alors, docteur Yves Kouamaïso, que faire alors pour que les acteurs politiques parviennent de façon consensuelle, parce qu'il y a des acteurs, des chefs de parti hein, qui ont dit il faut quand même aller à un consensus afin d'opérer ces réformes politiques-là, Yves Kouamaïso.
Moi, j'ai un problème avec tous ces gens qui essayent de trouver des solutions, parce que, je vous dis, la première solution, c'était de dire que c'est vieux et on supprime ces accords. Maintenant, c'est ce que Fornia Singbe tente de faire, on verra s'il réussit. Il y a le deuxième élément, beaucoup plus subtil. C'est qu'il va garder cet accord politique global, il le fait avancer selon un calendrier des escargots ou des limaces. C'est-à-dire que ça n'avance pas depuis 11 ans. Il va faire semblant de mettre des petits trucs en mise en œuvre et ça n'avance pas. Et entre-temps, on essaie de donner à manger, à tout ce qu'on peut donner à manger, pour que ceux-là aussi l'acceptent. Donc ceux-là qui prennent à manger, parce qu'il faut le dire, ceux-là qui sont dans des cultes et des structures ésotériques, et qui sont donc d'accord avec Fornia Singbe pour soit ne pas faire avancer, ou faire avancer au rythme d'escargot, ceux-là ne peuvent pas vouloir le changement, encore moins l'amélioration de l'accord politique global. Et donc quand vous parlez d'unité d'action, il va falloir donc vous identifier ces gens-là d'abord. C'est pas écrit sur leur tête, hein, qu'ils sont pour vous ou contre vous, pour l'accord politique global ou pas. Ce qu'ils disent n'est pas nécessairement ce qu'ils font. Le jour, on vous voit, la nuit, on vous voit pas. Donc ces acteurs-là, il va falloir les trouver. Alors pour arriver au consensus que vous souhaitez et qu'il va falloir opérer, mais avec qui vous allez le faire? Si vous prenez des acteurs qui la nuit travaillent avec Fornia Singbe et le jour travaillent avec la dite opposition. Voilà d'abord le problème qu'il faut régler. Si en plus le choix est fait qu'on ne veut même pas entendre la diaspora, qu'on refuse de compter cette diaspora, donc nous n'existons pas dans la diaspora, plus de 2,5 millions de personnes n'existent pas, et que Fornia Singbe a trouvé rien de mieux que d'aller chercher des étrangers du Rwanda et n'a pas cherché dans sa diaspora des gens qui pourraient lui faire des propositions intelligentes de manière indépendante, parce que c'est ça le problème. Des propositions de la diaspora, il en a tous les jours, mais elles ne sont pas indépendantes. Donc toutes ces structures, ces VJR, le H-Croom et autres, ne sont pas indépendants. Et s'ils l'étaient, leur avis est non lié. On s'en fout. Donc, si vous voulez résoudre ça, il va falloir que ceux qui disent qu'ils veulent ce changement, quel que soit le bord qu'ils ont, reviennent à eux-mêmes Est-ce qu'ils ne sont pas hypocrites avec le peuple togolais? Est-ce qu'au fond, la nuit, ils ne font pas ce qu'ils ne font pas le jour? Ou la nuit, ne disent-ils pas ce qu'ils ne disent pas le jour? Le Togo est malade de l'hypocrisie de ses dirigeants.
Oui, docteur Yves Ekwea Maizo, et beaucoup de Togolais sont dans l'espérance de l'opérationnalisation des réformes politiques. Et malheureusement, selon certains observateurs avisés, le pouvoir, comme vous voulez de le dire encore, tourne en bourrique le peuple. Alors, et sur le terrain, des voix s'élèvent et on espère un soutien sur tous les plans auprès de la diaspora togolaise qui peine aussi à s'organiser. Alors, que direz-vous concrètement pour conclure cet entretien et quel est votre mot surtout à l'endroit de la diaspora togolaise?
Ou pas diaspora, il faut une prise de conscience globale. Je vous dis qu'un pays dans lequel 80% de la population n'arrive pas à bien manger et surtout a beaucoup d'ignorance sur ce qui se passe réellement dans le pays, c'est pas leur faute d'ailleurs, puisque l'information ne circule pas, c'est très difficile. Maintenant, on a des exemples. Le Burkina Faso, le peuple des hommes intègres. D'autres pays voisins autour de nous ont réussi quand même à faire des changements, à faire respecter des constitutions. Mais n'oubliez pas que c'est une lutte permanente. Donc il y a d'abord une prise de conscience. Deux, il faut d'abord commencer par dire, autant pour la diaspora, autant pour le peuple togolais, qu'ils arrêtent de travailler la nuit avec les gens qui sont au pouvoir. S'ils veulent un changement. Je préfère qu'ils disent qu'ils sont membres du Parti Unir, ou les partis nouveaux créés, on en a 108 je crois, qui travaillent avec ce système, plutôt que de faire l'hypocrisie. Et enfin, il faut que le peuple togolais lui-même, les citoyens togolais eux-mêmes, arrêtent de rêver. Il faut arrêter de rêver, c'est pas en allant uniquement dans les cultes religieux à gauche et à droite que vous allez faire un changement. Il faut donc s'organiser. S'organiser, ça commence comment? Ça commence par des gens qui d'abord identifient avec qui vous allez vous organiser. On ne s'organise pas en disant je veux l'unité, puis l'unité vient tout seul. Il y a des gens qui sont là pour trahir. Il y a des gens qui sont des fous. Il y a des gens qui sont là qui vont faire semblant de venir pour pouvoir avoir de l'argent. Ils vont vous vendre et manger. C'est ça le peuple togolais dans sa globalité. Et c'est pour ça que nous sommes les derniers dans l'Afrique ou de l'Ouest à ne pas arriver à faire un changement dans notre pays parce que nous sommes les premiers à avoir subi des coups d'État, des Occidentaux et principalement de la France d'ailleurs. Et depuis ce jour-là, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et la raison fondamentale, c'est que tout le processus depuis 1963 est basé sur la trahison et donc sur l'hypocrisie.
Mais donc, justement, docteur Yves Kamaizo,
regardez nous-mêmes qui nous sommes.
Exactement.
C'est difficile après d'aller voir quelqu'un qui a le pouvoir militaire, qui a la force brutale des militaires et qui a l'argent et qui va vous acheter.
Et comment y arriver à cette conscience collective, docteur Yves Kamaizo?
Ah mais c'est ce que font la plupart des gens aujourd'hui. Certains écrivent, certains disent la vérité, certains les journalistes publient tout ce qu'ils peuvent publier. Devrait aller vers la transparence, tout le peuple togolais cherche par tous les moyens à essayer d'organiser cela. Mais derrière, vous avez des représentants de ces peuples-là sous forme de partis politiques. Et ces représentants ont d'autres objectifs qui ne sont pas nécessairement ce que vous venez de dire. C'est ça le fond du problème. Ce qu'ils annoncent n'est pas ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils disent n'est pas exactement l'objectif qu'ils atteignent, ou peut-être pas leur chef. Donc, comment vous voulez résoudre ce problème-là? Donc, il faut laisser ce système, en fait, aller jusqu'à pourrir à la moelle. Parce que vous ne pouvez pas changer un fruit qui a commencé à pourrir. Hein. Vous devez le laisser pourrir jusqu'à la moelle. À moins que le peuple lui-même dise, ça suffit. C'est-à-dire que le peuple togolais est un peuple qui accepte tout. Les Burkinabés n'acceptent pas, les Béninois n'acceptent pas. Vous voyez, le peuple togolais accepte tout. Donc, quand vous avez une mauvaise odeur à côté de vous, une très très mauvaise odeur à côté de vous, tous les 15 pays de la CDAO, et les 14 pays de la CDAO, et les 15, pardon, les 14 ont dit non. Le Togo dit oui. Une très mauvaise odeur qui sent mauvais, 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 le Togolais dit oui. Et quand je dis le Togolais, c'est collectif, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non. Mais collectivement, nous disons toujours oui.
Et pour vous relancer, toujours dans cette optique-là, comme vous le dites, le Togolais dit tout le temps oui, mais il y a beaucoup de Togolais qui disent qu'ils sont désabusés, ils ne font pas de la politique. Alors, que direz-vous à ces compatriotes-là Togolais, Dr. Yves Ekwea Maizo?
Qui ne veut pas se mêler de politique. Je vous ai donné un exemple. Ces gens de Togolais-là, il faut leur dire, quand il y a une mauvaise odeur, il faut qu'ils l'acceptent. Quand il y a une très, très, très mauvaise odeur, il faut qu'ils vivent dedans. Vous voyez ? Quand il y a des maladies contagieuses, qu'ils vivent dedans. Quand les gens meurent dans les hôpitaux, qu'ils vivent dedans. Quand ses parents, grand-mère, grand-tante, sœur, tante ont des problèmes et qu'il est obligé, n'a pas d'argent pour le soigner, qui le laisse mourir à l'hôpital mourant pendant que quelqu'un a fait un projet pour aller acheter une voiture de course ou faire un aéroport où il n'y a pas d'avion qui arrive? C'est ça qu'il faut leur dire. Il ne faut pas les changer. On ne change pas des gens. Beaucoup de gens croient que vous allez... On ne change personne, vous savez, chaque individu est libre, Dieu l'a créé libre. il doit sentir à un moment donné que ça sent mauvais. Il doit sentir que la contre-vérité des urnes, ce n'est pas comme ça qu'un État peut être géré. Il doit savoir qu'à un moment donné, quand quelqu'un a 75% d'endettement, c'est qu'il est devenu dépendant. Et donc, il va vendre le pays. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il vend le pays au plus offrant et il empoche sa commission au passage. Mais tant que ceci est accepté, quand quelqu'un va dire « je préfère aller prendre le riz fort et manger » plutôt que de me dire « mais comment ce riz fort là, ça sent mauvais, ça vient des cultes ésotériques ici et là, ça va me porter malheur ?» Tant qu'il n'a pas dit ça, il n'a pas encore pris conscience qu'il y a une lutte à faire. C'est ça le problème. Et donc il faut qu'il prenne conscience d'une lutte. C'est comme quand vous cherchez Dieu. Vous devez prendre conscience d'abord du mal que vous avez rejeté. Si vous ne rejetez pas le mal, comment voulez-vous aller vers le bien? Et puis vous allez douter. Il faut douter de ce régime. Est-ce que ce régime, ce qu'il fait, est bien pour le Togo? Quand quelqu'un refuse d'honorer sa signature, l'accord politique global, quand quelqu'un refuse d'honorer sa parole, il ment deux fois de suite. Regardez tout ce que Fonia Singbe promet chaque fois que nous avons une nouvelle année. Il promet des choses. Est-ce qu'il les a faites? Non. Mais nous acceptons. Le Togolais, moyen, accepte. Donc, s'il accepte, il faut accepter. Il faut accepter que la majorité accepte ce régime-là. Donc, d'accord. Il faut attendre que ça sente tellement mauvais qu'ils disent que vraiment, je ne peux plus manger mon akoumé. Je ne peux plus manger la viande dans la sauce tellement ça sent mauvais. Donc, il va se lever, laisser son repas-là et aller d'abord nettoyer pour que vraiment, ça ne sente plus mauvais. Mais le Togolais ne veut pas nettoyer ce qui sent mauvais. C'est ça le problème.
Justement, l'occasion fait le larron, comme on le dit très souvent. Docteur Yves Kouyamaïso, vous êtes un membre influent de la diaspora togolaise. Beaucoup de Togolais vous connaissent, sauf si ceux qui ne veulent pas s'informer sur la situation sociopolitique au Togo. Alors, il y a toute une pléthore d'associations au niveau de la diaspora et on parle d'organisation tout le temps et le problème de leadership se pose également. Alors, comment arriver à mutualiser nos efforts au niveau de la diaspora afin de peser lourd dans la balance sur la situation sociopolitique au Togo, Dr Yves Kouyamaïso?
Alors, vous avez deux problèmes dans ce que vous dites. C'est très vrai ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a eu un nombre incalculable d'institutions, d'organisations, d'associations qui se mettent ensemble. D'ailleurs, séparons bien. Il y en a qui font des associations, en fait, de solidarité, parce qu'ils sont tous pauvres, et qu'ils cotisent seulement quand il y a un enterrement, quand il y a un baptême, un mariage, ou quelque chose comme ça. Donc ceux-là, vous les enlevez, parce que c'est pas des gens qui veulent lutter. Bon, parce qu'il faut lutter. Pour lutter, il faut avoir pris conscience qu'il y a un problème. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir senti que ça sent mauvais. Mais s'ils disent qu'ils sont très bien là où ils sont, ils veulent juste faire les trucs culturels et autres, il faut qu'ils continuent. Personne ne va les empêcher. Mais qu'ils viennent pas se plaindre quand ils subissent des éléments, des efforts, et tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu des abus des droits humains. Donc, un, la prise de conscience commence là. Deux, il y a un autre problème, vous l'avez dit avant, beaucoup de gens créent une structure, une association, en pensant que personne n'a rien fait avant eux. C'est ça le problème. Vous savez, on appelle ça le nombrilisme. Le nombrilisme, c'est celui qui ne regarde que son nombril. Encore faut-il qu'il n'ait pas un très gros ventre, parce qu'il ne peut même pas voir son nombril. Ben alors, ce nombrilisme togolais, il est très grave. Parce que chacun croit partout, aux États-Unis, au Canada, en France, aussi en Allemagne, en Suisse, j'en cite des meilleurs, qu'il est le premier à vouloir se réveiller, il va créer ceci, chacun doit aller faire ceci, on va faire une réforme. Vous savez, si on faisait un minimum de travail d'histoire, on s'apercevrait que, mais depuis les années 60, le Togolais est en lutte. Depuis les années 60, certains sont connus, certains sont morts, certains sont blessés, certains sont handicapés, certains on ne les connaît même plus. Mais lisez les très bons livres du doyen, le doyen Tete Godwin. Et il a mis plusieurs noms, il a même fait des livres pour beaucoup d'entre eux. Est-ce qu'il faut parler encore d'Amorin? Ils sont nombreux à avoir lutté pour la liberté de tout, de chacun d'entre nous ici. Le problème vient maintenant que, à côté du nombrilisme, on ne pense pas d'abord au peuple togolais, on pense à soi-même. Le nombrilisme, on pense à soi-même. On veut être celui, le sauveur. Voilà le problème.
Donc, bref,
tout le monde est Zorro.
Bref,
tout le monde est Tarzan. Donc, même si Tarzan, il est blanc. Donc, il vit en Afrique.
Donc,
il connaît toute l'Afrique mieux que nous. Il connaît la jungle mieux que nous. Il connaît les singes mieux que nous. Il parle aux singes. Et nous, les Africains qui sont avec les singes tous les jours, nous connaissons rien. Voilà le système que le blanc nous a organisé. Et que chacun veut organiser ici. Donc ce qui se passe avec des partis politiques, avec des associations, ce que vous dites, c'est la même chose. Chacun se prend pour Tarzan. Chacun se prend pour Zorro, chacun se prend pour le sauveur. Il n'y a pas de sauveur au Togo. Il y a des organisations qui comprennent qu'il y a une prise de conscience que ça sent mauvais.
D'accord.
Donc, quand ça sent mauvais, ceux-là deviennent humbles.
D'accord. En gros, Dr Yves Kouyamaïso, le sens de patriotisme manque-t-il au peuple togolais?
parler ça, le peuple togolais est patriote, faut pas dire ça. Il y a des patriotismes, c'est quelqu'un qui aime son pays, il n'y a pas de problème en soi. Monsieur Trump aime les États-Unis, il dit qu'il va servir les États-Unis. Non, le Togolais aime le Togo, il va servir le Togo, il n'y a pas de problème là-dessus. Faut pas parler de patriotisme. Il y a un problème de prise de conscience personnelle, c'est un problème individuel.
D'accord.
C'est un problème individuel du Togolais.
Okay. Okay.
Pour que vous arriviez au collectif, il faut passer par l'individuel. Voilà. Il y a ceux qui ont peur. Alors ils se remettent à la force extérieure. Je vais à l'église, je vais ceci, je fais de l'ésotérisme, parce qu'ils sont faibles. Ils estiment que quelqu'un de l'extérieur va venir intervenir, et ils estiment que ça ne peut être qu'un tel ou un tel, un tel, mais ça sort de son pouvoir, lui. Bon. Il y a les autres qui disent, je suis peureux, je ne touche à rien, j'ai peur, je veux pas d'histoire, voilà, je fais pas la politique. Très bien. Et puis il y a d'autres qui disent, non, en fait, c'est nous qui pouvons changer. Quand vous allez marcher devant une église, devant une école, et qu'il y a un gros tas de boue, mais vous devez nettoyer ce tas de boue. Vous devez mettre un peu de salve, peut-être un peu de goudron, pour que demain, quand il pleut, vous marchez sur quelque chose qui est sec et qui est propre. Vous ne le faites pas. Vous allez à l'école, vous revenez. Vous allez à l'église, vous revenez. Mais le trou de boue, là, il est toujours là. Hein. C'est ça, le Togolais. C'est que lui, ça n'a pas son problème. Donc, il y a plutôt un manque de conscience politique collectif. D'ailleurs, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure par le monsieur de l'ANC.
Mmh.
Il demande aux gens de se joindre à eux. Mmh. Mais en fait, le constat qu'il fait, c'est que les gens ne viennent pas, en fait, réellement. C'est ça, le fond du problème.
Mmh.
Tout le monde ne vient pas, non. Il y a des gens qui vont, puisque c'est un parti politique représentatif. Il y a des gens qui y vont, mais il n'y a pas suffisamment.
Mmh.
Et pour avoir suffisamment, c'est que le parti lui-même doit apprendre que les gens ne vont pas aller chez eux de manière instantanée. Il va falloir que eux aussi, ils fassent quelque chose qui attire les gens.
Exactement.
Ils fassent quelque chose que les gens aiment chez eux.
Merci.
Si les gens n'aiment pas, les gens n'iront pas.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, docteur Yves Ekwea Maizo, coordinateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora. Vous êtes aussi économiste et consultant international. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Vienne, en Autriche, dans cette émission panafricaine, Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Peuple togolais, pouvoir et opposition, société civile, nous sommes tous concernés par l'appel républicain de nos évêques. Faisons notre devoir citoyen en disant non à la nationalisation de l'indifférence. Armée togolaise, gardienne de notre dénigrement, tu es aussi concernée par cet appel républicain de nos évêques. Lève-toi et défends tes fils et filles.
Soso gloso sodo, elole.
La patrie nous appelle. Peuple togolais, l'heure du réveil a sonné. Toutes et tous, bâtissons la cité.
Oui d'accord, avions la voie. Oui d'accord, milagro elo. Oui d'accord, avions la voie.
Ceci est un message de la diaspora togolaise sans couleur politique.
Merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.ch, c'est Radio Partenaire. Parlons d'athlétisme au Togo. À la CAN 2017 au Gabon, le Togo a été éliminé dès le premier tour. Des amoureux du ballon rond ont estimé que le football togolais est vraiment malade pour faute de malorganisation sur plusieurs plans, notamment au niveau de la Fédération togolaise de football. Mais le sport en général au Togo rencontre de grandes difficultés, surtout d'organisation. Nous allons nous intéresser à la Fédération togolaise d'athlétisme dirigée par le général Poutoyi Nabédé. Et pour en parler, notre invité est Lanwi Karba, expert en athlétisme du Comité olympique et sportif allemand. Il est aussi ancien athlète et entraîneur national d'athlétisme au Togo. Lanwi Karba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Amos.
Merci de nous accompagner en direct depuis l'Allemagne. Je viens de le dire, vous êtes expert en athlétisme du Comité olympique et sportif allemand. Vous êtes aussi un ancien athlète et entraîneur national d'athlétisme au Togo. Et selon des informations, les jeunes ne s'intéressent plus, et comme avant, à l'athlétisme. Et principalement, et la seule raison, c'est la Fédération togolaise d'athlétisme, et qui est très mal organisée et n'encourage pas ce sport. Alors, est-ce que vous confirmez cette information?
Merci d'abord, monsieur Amos. pour commencer, de m'avoir permis d'intervenir sur cette antenne. Je crois qu'un jour, la jeunesse togolaise aima vraiment l'athlétisme, vous dira une fois merci. Effectivement, je suis Lanwi Karba, expert en athlétisme du comité olympique sportif allemand, diplômé à l'INJS de Lomé et de la Haute Université des Sports en Cologne, en Allemagne. Je suis actuellement en année de thèse pour vous donner plus d'informations. J'ai été entraîneur d'athlétisme au Togo avant mon départ pour l'Allemagne. Et je suis particulièrement attaché au développement non seulement de l'athlétisme, mais aussi du sport en général au Togo. Mais il y a beaucoup qui peuvent vous témoigner mes actions envers pratiquement non seulement l'athlétisme, mais d'autres sports sur le plan national au Togo. Avant mon départ pour l'Allemagne, je dirais que la fédération était dans un état catastrophique. Faut pas cacher le mot. Et depuis près de 20 ans, la situation est toujours, disons, récurrente. Je voudrais d'abord préciser ici que je parle en tant que fils du Togo. Donc, revenant à votre question, j'ai été pendant plus de 5 ans entraîneur, comme je l'ai dit tantôt. Et depuis, je dirais que rien n'a changé. L'athlétisme est vraiment malade. Malheureusement, comme vous l'avez dit, on remarque une défection totale de la jeunesse au sein de cette fédération. Bon, car le bureau exécutif actuel aurait mis en place depuis 1995 un arsenal psychophysique pour décourager les jeunes et les entraîner et les entraîneurs qui s'y aventurent.
D'accord.
Bon, ce qui veut dire pratiquement qu'on ne pratique plus l'athlétisme au Togo. On est toujours à un niveau plus bas que le niveau de l'amateurisme.
D'accord.
Toutes les activités de l'athlétisme sont concentrées seulement à Lomé et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Alors que le Togo regorge beaucoup plus de talents que dans certains d'autres pays, dans certains pays de la sous-région.
D'accord. Alors, Lanwi Karba, et cette situation que vous évoquez ne peut-elle pas s'expliquer par le peu de moyens dont dispose la fédération, ou c'est plutôt une mauvaise gestion du général Poutoyi Dambélé, qui est actuellement le président de la fédération togolaise d'athlétisme au Togo?
Monsieur Amos, je voudrais dire que, franchement, l'athlétisme est l'un des enfants gâtés du gouvernement togolais, ce qui veut dire que j'ai le rapport financier des 4 dernières années de l'athlétisme de la Fédération d'athlétisme devant moi. En 2013, l'athlétisme a eu une subvention de plus de 31 millions. En 2014, 9 millions. En 2015, 15 millions. Et en 2016, ils ont eu des subventions de plus de 31 millions. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des moyens financiers pour pouvoir développer ce sport au Togo. Bon, moi, je me pose souvent la question, comment comprendre qu'avec une subvention de plus de 10 millions chaque année offerte gracieusement par la Fédération internationale d'athlétisme et plus de 13 millions de la dividende olympique, cette fédération n'arrive pas à amorcer son développement. Depuis plus de 17 ans, cette fédération n'a jamais organisé de championnat national en bonne et due forme. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine opacité et une mauvaise gestion des finances, ajoutée d'un système de falsification constante des rapports financiers. Il y a un exemple tout récent. Le trésorier général de la fédération a refusé de signer les rapports financiers car ne voulant pas cautionner le vol orchestré par quelques tiers au sein du bureau exécutif du système.
Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage.
Même les sponsors refusent d'aider cette fédération. D'accord. Par le passé, ils ont financé cette structure et n'ont jamais eu de rapport financier expliquant les dépenses faites. Monsieur Amos, je vous dirais... de faire un tour au siège de la Fédération togolaise, vous allez remarquer l'état de délabrement du siège de cette fédération. Et malgré que les gens défalquent pratiquement 3 millions chaque année pour, disons, la gestion de ce siège.
Non. C'est dommage.
Je dirais que c'est la seule fédération au Togo qui n'a pas de bibliothèque pour archiver les performances des athlètes, ni de salle de réunion depuis plus de 10 ans. Ce qui veut dire que toutes les réunions se font pratiquement dans la maison du président.
D'accord. Alors, vous êtes ancien athlète et depuis quelques années, vous êtes expert en athlétisme du Comité olympique et sportif allemand. Et cela sous-entend que vous avez des expériences dans ce domaine. Est-ce que vous avez tenté de prendre contact avec la Fédération togolaise d'athlétisme pour leur apporter votre expérience? En gros, quelles sont vos relations avec la Fédération togolaise d'athlétisme?
Monsieur Amos, je vous remercie pour votre question. Tout le monde me connaît au Togo, surtout tous ceux qui sont dans le domaine de l'athlétisme. Ils me connaissent bien au Togo. La fédération et moi avons de bonnes relations, je crois. Et je suis régulièrement en contact avec cette fédération quand des possibilités de dons, de matériel sportif et de formation s'ouvrent. Je contribue d'une manière ou d'une autre à l'émergence de l'athlétisme au Togo. En plus, pour aider au développement de l'athlétisme, j'ai apporté ma modeste contribution en matière sportive et ai pris des initiatives qui aideraient à combler le manque d'entraîneurs au sein de cette structure. Et depuis 2007, je crois, je viens partager mes expertises, comme vous l'avez dit, en formant chaque année des entraîneurs. Des formations qui sont d'ailleurs financées à 100% par le ministère des Affaires étrangères allemand et le Comité olympique allemand. Donc, à ce jour, j'ai déjà formé près de 200 entraîneurs. Et Amos, pour la petite histoire, comment imaginer qu'un pays vous envoie un expert et que c'est ce dernier, cet expert qui doit prendre en charge quotidiennement et mensuellement le chauffeur qui le conduit et du carburant du véhicule de service qui lui a été alloué pour la mission. Et je vous dirai en plus que les entraîneurs d'athlétisme togolais passent faire des stages à Dakar et ailleurs, avec pratiquement des poches vides, sans aide financière et de la fédération. Et juste à côté, les entraîneurs des autres pays arrivent avec des centaines de milliers de francs CFA dans leur poche octroyés par leur fédération. Mes observations sont simples dans ce sens. Le bureau exécutif actuel n'aime pas innover. Donc, le président est entouré de certains individus qui poursuivent des intérêts divers. Et ceci le pousse à l'erreur, je crois bien. Si bien qu'il existe au sein de cette fédération des structures informelles et fictives. Donc, des clubs fictifs à des fins électoralistes, au lors des congrès. Et le Togo possède plus de 70 clubs. Et je crois avec 70 clubs dans un pays, l'athlétisme devait être de haut niveau.
Justement.
Il y a au sein de cette structure un certain autoritarisme et le tribalisme en matière de gouvernance administrative.
C'est dommage. Et là, il y a trop d'anomalies au sein de cette fédération togolaise d'athlétisme, selon vous dire. On va justement voir ça avec notre correspondant à Lomé au Togo pour en savoir un peu plus. En général, la FT, Fédération togolaise de football, a connu également ces anomalies-là. Donc, c'est le sport en gros au Togo qui va pas. Et là, l'ennui, Karba, on dit souvent, et quand la politique ne va, rien ne va. Alors ce constat se fait aussi malheureusement au Togo et depuis des années, et bon nombre de Togolais espèrent que les réformes constitutionnelles et institutionnelles s'opèrent afin de reconstruire le Togo sur tous les plans, comme vous êtes sur le plan sportif également. Alors vous, en tant qu'originaire du Togo, quelle est votre analyse de la situation et que doit faire le Togolais lambda comme vous?
Merci beaucoup, monsieur Amos. Mais il faudrait reconnaître que le gouvernement actuel fait des efforts pour aider l'athlétisme au Togo. Et quelquefois, les subventions annuelles de l'État en athlétisme dépassent les 30 millions de francs CFA. Et dans ce sens, je crois que la vie devrait être rose du côté de l'athlétisme, car la politique, sur ce plan, accompagne l'athlétisme. Non, c'est juste pour rire, monsieur Amos. C'est juste pour rire. Bon, si nous faisons la projection sur le plan national, je ne m'y connais pas tellement en politique, mais je crois que je peux faire quelques analyses concernant notre pays, en commençant par la citation de Thomas Sankara qui disait, je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte n'est pas digne que l'on s'apitoie sur son sort. » Ma première observation, on a l'impression que la situation politique actuelle au Togo profite à certains opposants, comme l'a dit le docteur Amazo. Et ces opposants utilisent cette situation politique pour redorer leurs comptes bancaires ou se remplir les poches. Donc, ce qui veut dire clairement que la politique se vend mieux au Togo. Ma deuxième observation, Je ne crois pas que le peuple togolais se plaint vraiment de son sort. Sinon, ce qui disait mon grand-père entre-temps, quelles que soient les intempéries et la densité de l'obscurité la nuit, l'homme ne peut résister aux exigences de la diarrhée. Il doit sortir faire ses besoins. Si ce peuple avait vraiment la diarrhée, il saurait où aller pour satisfaire ses besoins. Ma troisième observation, pour amorcer... Vous m'écoutez, monsieur Amos?
Je vous écoute, allez-y seulement. Vous avez encore deux minutes, allez-y.
OK. Ma troisième observation, pour amorcer son changement, je crois que le Togo n'a pas besoin de cette pléiade de partis politiques. Nous avons pratiquement 110 partis politiques, si j'ai une bonne souvenance, pour un petit pays de 7 millions d'habitants. Je crois que c'est trop. Et comparativement aux pays qui ont la tradition de la démocratie. Et paradoxalement, et on dirait que le changement a failli aboutir même dans les années 90, où il n'y avait que moins de 5 partis politiques. Je crois que vous avez les souvenirs encore. Ma quatrième observation, le mal togolais, c'est que le pays ne regorge pas suffisamment de politiciens qui aient fait des études des sciences politiques. Donc cela ne peut conduire qu'au manque de stratégie politique, entre guillemets. Et qui parle de stratégie politique doit prendre une longueur d'avance sur son adversaire politique. Et ce n'est pas malheureusement le cas de l'opposition togolaise qui se laisse facilement berner et malmener. Amos, à l'état actuel des choses au Togo, je crois que les réformes viendront. Quand l'homme attaqué par la diarrhée aurait déjà défecté dans sa chambre et qu'il est obligé de sortir de cette chambre, comme l'a dit le docteur, car dérangé par la puanteur de sa défection.
D'accord.
Donc, on va conclure. Mais il faut se poser la question quand.
Quand, exactement. On va conclure. On va nous couper. Donc, pour vous, il faut une mobilisation. Car, comme on le dit souvent, trop c'est trop. Donc, il faut que tout le peuple togolais s'organise. Merci beaucoup, Lanwi Karba, expert en athlétisme du Comité olympique et sportif allemand. Vous êtes également ancien athlète et entraîneur national d'athlétisme au Togo. Et vous qui nous rejoignez ou bien qui nous suivez sur le 3xW.canalk.cr et nos radios partenaires, nous terminons cette émission et comme l'a chanté Amène Dia Sissé, 50 ans de dictature au Togo, ça suffit. Bonsoir et à très bientôt.
Démocratie dans la gueule, je dis ça suffit comme ça. 50 ans de dictature là, ça suffit. 50 ans de criminalité, je dis ça suffit comme ça. 50 ans d'injustice là, ça suffit. Oh non non non.
Parce que 50 ans c'est trop. Il a décidé Miak Blenard.
Ils ont dirigé pendant 50 ans. On n'a rien compris. Je dis rien n'a changé. Ils ont gouverné durant un demi-siècle. Mais aucun changement. Une seule famille pendant 50 ans, je dis arrêtez ça là. Démocratie familiale là, ça suffit. L'état de droit qu'ils nous font croire, je dis c'est du blablabla. Bla, bla. 50 ans de sale politique là, ça suffit. Oh non, non, non. Et sous nénés,
dame sous l'eau.
La démocratie dans la queue, je dis ça suffit comme ça. 50 ans de criminalité là, ça suffit. 50 ans d'injustice, je dis arrêtez ça là. 50 ans d'impunité.